disons que si je peux avoir un point de vue sur la position natale et peut-être des indications pour maintenant,
Ouais.
orienter entre l'ascendant et le descendant, comme on avait parlé la
Ouais.
dernière fois,
Ouais.
ça me conviendrait bien. Voilà. Mais j'ai Lilith, et après il y a sans doute d'autres planètes et d'autres machins qui vont parler, donc voilà, je t'écoute.
Voilà, c'est ça en fait. Bah oui, parce qu'en fait, les planètes sont liées entre elles. Alors, donc,
Bah oui.
du coup, je vais déjà démarrer sur la globalité du thème.
Ouais.
Donc, toi, t'es né avec un soleil en Sagittaire, et puis un ascendant au premier degré Capricorne. Donc, tu as le Saturne. Saturne dirige l'ascendant ici, il dirige le Capricorne. Donc, on va dire que, tu vois, le Sagittaire est plus, et c'est un signe de feu. C'est un signe qui cherche beaucoup l'expansion. Voilà, donc du coup, c'est un signe assez enthousiaste. C'est un signe qui a pas mal d'énergie, on va dire, et notamment qui la déploie au niveau mental pour des visions de projets, des visions sur le futur. Tu vois, donc on va dire que le Sagittaire est un signe très créatif au niveau mental supérieur. Voilà, parce qu'il va chercher, si tu veux, à s'élever, ou il va chercher à s'agrandir, on va dire, à se développer, tu vois. Là, on est en maison 11 en plus, donc il y a l'idée de la libération, il y a
Ouais.
l'idée du collectif, il y a
Ouais,
l'idée
à fond.
de participer à quelque chose de plus grand, tu vois. On va
À
dire
fond, ouais.
le Sagittaire, tu vois, il a un petit côté, on va dire. C'est pour ça qu'on met le cheval, tu vois, en lien avec le Sagittaire, parce que justement il voit grand, tu vois, il voit grand, il
Ouais.
voit large. Et ici, il y a une conjonction entre le Soleil et Saturne, donc d'une certaine façon, en fait, cet objectif à long terme ou cet objectif d'expansion du Sagittaire doit se faire avec Saturne, donc dans l'idée de l'autonomie personnelle, dans l'idée de la structuration personnelle. Dans l'idée de devenir une forme d'autorité aussi, tu vois, donc
C'est
c'est-à-dire
ça.
la relation un peu au pouvoir,
Ouais.
c'est-à-dire disposer de son propre pouvoir, notamment en
C'est
termes
ça.
de par rapport à son propre devenir, tu vois, sa propre construction. Donc il y a l'idée de la liberté, tu vois, et c'est une liberté, on va dire, construite, tu vois, voilà, on
Ouais.
construit sa liberté ou on construit son élévation, construit sa libération. On construit son voyage aussi, d'une certaine façon, en fait,
Ouais.
son exploration, tu vois, donc c'est une exploration en forme d'élévation progressive où on va, en fait, intégrer de plus en plus de pouvoir personnel ou d'autorité personnelle, ou de sécurité aussi, personnelle, de compétences, tu vois, etc., etc., tu vois. Donc on est déjà là-dessus sur la base identitaire. Donc c'est vrai que le Sagittaire, il lui faut toujours des nouveaux projets, et on va dire qu'il lui faut toujours un moteur d'expansion, tu vois, pour
Ouais.
rester justement dans cette joie naturelle ou dans ce feu naturel. Donc toi tu as un Jupiter, c'est Jupiter qui dirige le Sagittaire, hein, tu as un Jupiter qui est en Poisson. Donc effectivement, en fait, ça peut conduire, hein, donc à la fois à l'orientation vers la thérapie ou l'orientation vers la psyché, vers l'inconscient, vers la guérison, vers l'émotion aussi, tu vois, vers l'imagination, donc tout ce qui est invisible, tout ce qui est psychique.
À
Donc,
fond.
forcément, tout ce qui a été refoulé ou tout ce qui a été qui est pas encore
À fond.
accessible, tu vois. Donc, du coup, c'est le
Ouais.
rapport entre le fantasmé et le réel, c'est le rapport entre
Complètement.
l'inconscient et le conscient, c'est le rapport
Absolument.
entre la connexion, le sentiment d'être connecté, hein, et le sentiment d'être séparé ou
Ouais.
d'être à côté, si tu veux, ou d'être dans une forme de confusion, etc. Donc effectivement, on sent que l'un des projets dans cette incarnation, c'est justement d'aller récupérer, on va dire, ses propres espaces qui peut-être se sentent abandonnés, qui peut-être se sentent flous, qui se sentent perdus, se sentent injuriés, enfin tu vois, se sentent même humiliés à certains endroits, etc. Tu vois, et redonner une structure. Tu vois, donc on va dire que
C'est ça.
globalement, si tu veux, on va aller chercher donc des moyens d'exploration des espaces inconscients, des espaces refoulés ou des espaces fantasmés, des espaces oubliés, hein, tu vois, mis à l'écart ou mis de côté, pour leur redonner une place dans une structure globale, tu vois. Donc, ouais. Donc quand tu me parlais, par exemple, tu vois, de ce projet avec les autistes et faire d'un handicap finalement une carte de visite employable, tu vois, c'est-à-dire en fait où tout d'un coup quelque chose qui peut être une tare devient en fait une qualité. Bon bah là, on rentre complètement dans le projet, tu vois. Voilà, ça cadre à fond parce que effectivement, derrière nos plus grandes faiblesses ou derrière nos plus grandes souffrances, en règle générale, il y a quand même une valeur, il y a quand même un trésor. Et bien souvent, en fait, c'est quelque chose qu'on met de côté parce que ça nous dérange, parce qu'il y a de la souffrance autour, parce qu'il y a du racisme ou de l'ostracisme ou du jugement, de la condamnation, tu vois. C'est-à-dire, en fait, une tendance à considérer ça comme inférieur ou comme blessé, donc comme inutile, si tu veux, quoi. Donc ça, c'est un gros truc. Mais c'est la même chose pour tous ceux qui ont des qualités, on va dire, d'empathie ou, tu vois, des qualités de sensibilité et qui finalement, en fait, vivent ça comme des tares, puisqu'en fait, ils en sont victimes, tu vois. Donc c'est, on va dire, comment restaurer les espaces qui se sentent victimes ou qui se sentent indignes,
tu vois.
Et comment leur redonner une place, comment leur redonner un sens et comment leur redonner surtout une valeur, c'est-à-dire de reconnaître cette valeur. Donc effectivement, ça, on va dire, et on voit bien l'ascendant Capricorne, c'est l'idée de s'autonomiser, de grandir, de se restructurer, de se réaxer ou de retrouver une forme d'intégrité et fondamentalement une sécurité, une profonde sécurité, tu vois, un enracinement dans la sécurité. Et toi, t'as Neptune à l'ascendant, donc ça veut dire que tu viens, si tu veux, cette reconstruction, elle se fait dans une forme de thérapie, ou dans une forme de, il y a la notion de pardon, il y a la notion de guérison, il y a la notion d'amour aussi, de recontacter l'amour de soi, recontacter justement ce sentiment de fusion, faire fusion avec soi-même. En gros, c'est comme si en fait on venait, comme si le Sagittaire il avait cette vision un petit peu d'un monde un peu stellaire avec des étoiles, et puis en fait on venait reconstituer une unité, hein. Voilà, c'est-à-dire comme si on venait reconstituer son ciel étoilé pour aller récupérer en fait ces fragments d'étoiles qu'on aurait pu perdre à gauche à droite, hein, tu vois, ou qu'on aurait pu laisser s'effondrer dans des espaces de non-mouvement ou dans des zones de jugement. C'est-à-dire en fait finalement aller chercher, hein, donc soit par la force de la foi, soit par le fait d'avoir une vision dans laquelle, en fait, les éléments qu'on pouvait considérer comme négatifs ou comme blessés ou comme inutilisables, entre guillemets, inutiles, bah, tout d'un coup prennent une fonction, prennent une place, voilà. En fait, quoi. Donc c'est un peu redonner une place à des espaces, hein, qui peuvent être à la fois des espaces qui n'ont pas grandi, puisqu'il y a des espaces immatures, hein, dans le poisson, en fait, on va dire. C'est des espaces qui n'ont pas osé grandir, hein, tu vois. C'est aussi des espaces qui sont blessés, effectivement, donc du coup qui sont restés, hein, dans une forme d'inertie, hein, par la blessure, par l'enfermement dans la blessure. C'est aussi des espaces refoulés, à la fois parce que c'était interdit, on trouvait pas l'espace de l'expression, mais aussi peut-être parce que justement ces espaces ont été blessés et sont devenus comme inactifs, hein, tu vois. Donc en fait, on va dire que c'est un peu tous les laissés pour compte, hein, les parties de nous qui sont laissées pour compte ou qui sont, marginalisées, hein, c'est-à-dire un peu, en fait, comme si on les avait expulsés, comme si on n'avait pas voulu les voir. Mais il y a beaucoup de la notion de jugement là-dedans, en fait, hein, des parties qu'on aurait pu juger, soit parce que socialement elles ne sont pas adaptées, a priori en tout cas, hein, soit parce qu'on les considère comme faibles d'une certaine façon, parce qu'elles sont dépendantes.
Ouais.
Elles sont dépendantes d'une sécurité extérieure, elles sont dépendantes d'une structure extérieure, elles sont dépendantes d'un fonctionnement, en fait, elles sont dans un fonctionnement pré-programmé ou stéréotypé, donc vis-à-vis de l'extérieur. Et donc quelque part, toute l'incarnation consiste à aller récupérer donc tes propres fragments, et de pouvoir le faire donc pour les autres aussi, quoi. Tu vois, donc ça va te perdre, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est dans l'effet miroir. Et puis on dit Neptune, c'est le miroir de l'âme. Donc là, on voit bien que ta propre expansion, ta propre libération, ta propre évolution passe par l'idée justement d'être au service. Hein, dans des groupes hein, ou même dans des relations t'es au service de ces parties qui se sentent out, tu vois.
Ouais.
Alors il y a beaucoup hein, justement c'est comme si dans cette incarnation tu avais choisi de revenir hein, sur un gros dossier qui est le dossier de l'abandon. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, le gros dossier de l'abandon, d'une certaine façon, c'est là qu'on voit plus arriver la dimension de la lune ou la dimension de la lune noire. Donc toi, tu as la lune en balance, elle est conjointe au nœud sud, donc on voit bien que dans l'antériorité, si tu veux, il y a eu comme une espèce de, il y a eu un refus de la dépendance à l'autre.
C'est clair.
Et c'est comme si en fait on avait voulu en fait s'affranchir du modèle féminin classique qui était d'exister à travers l'homme, tu vois. Donc c'est-à-dire donc d'exister à travers la femme soumise ou la femme objet, hein, tu vois, la femme mère, la femme un peu potiche, tu vois, enfin la femme objet de réussite de l'homme, si tu veux. Donc on va dire que dans une autre incarnation ou dans d'autres incarnations, il y a eu pas mal de rébellions, si tu veux, du féminin. Et ça s'est pas toujours bien passé, hein, tu vois, parce que effectivement, ça a pu conduire à des violences, donc notamment des violences conjugales, tu vois. Ça a pu aussi conduire à des violences sociales, en fait. C'est-à-dire que ça a pu s'opérer dans des époques où finalement, même si certaines femmes avaient le désir de l'émancipation, si tu veux, c'était pas soutenu ou reconnu par le groupe, tu vois, pas par la société, hein, tu vois. Donc, d'une certaine façon, en fait, c'est comme si une femme qui n'était pas en couple devenait une mauvaise femme, tu vois, ou était une femme proscrite un peu, quoi, tu vois. Donc, alors, ça a pu donner pas mal d'expériences, hein, puisque il y a pu avoir des expériences de veuvage, hein, tu vois, donc dans la dimension où finalement, soit parce que la femme, cette émancipation, si tu veux, a pu passer par la recherche de facilité matérielle auprès des hommes, ou en tout cas à travers des couples. Et finalement, bah, du coup, le classique, on va dire, dans l'ancien temps, c'est quand même, on se marie avec un gars qui a du fric. Donc, du coup, un gars qui est peut-être plus vieux, etc., qui va peut-être mourir, tu vois, avant. Voilà, qui va mourir assez vite, etc. On a même pu aller jusqu'au crime. Parce que en fait, je veux dire, ça veut dire le crime pour l'émancipation, tu vois. On voit bien ici, hein, on voit une Vénus Pluton en Scorpion, donc on voit que les problématiques de couple, enfin le refus de la dépendance à l'autre,
passe par la violence.
Ouais, ça peut passer par la violence ou ça peut passer par la manipulation. Tu vois, ça peut passer aussi par la tromperie, hein, tu vois, c'est-à-dire que je vis apparemment une relation, on va dire, classique, et puis finalement, par derrière, en fait, je vis mon émancipation, tu vois, donc je vis ma liberté sexuelle.
C'est tout à fait ce que j'ai vécu aussi.
Voilà, mais on peut aussi avoir désiré s'affranchir totalement du mariage ou du couple, tu vois, pour vivre, on va dire, sa dimension personnelle, sa dimension féminine personnelle. Mais là, c'est comme si, en fait, finalement, on utilisait ses charmes, on utilisait son magnétisme, on utilisait sa capacité à se faire désirer, tu vois, ou à désirer ou à se faire désirer, c'est-à-dire à attirer, on va dire, à soi l'objet du désir. Et là, pour le coup, bah oui, on a pu déjà faire femme fatale, on a pu refuser totalement même le mariage, tu vois, c'est-à-dire rester célibataire, non, ça veut dire des prétendants, mais toujours refuser, on va dire, la soumission, quoi, ou en tout cas l'exclusivité, tu vois.
C'est marrant parce que tout ce que tu dis par rapport au couple, j'ai l'impression d'avoir vécu plus ou moins tout ce que tu dis dans différents couples plus que maintenant.
C'est normal, on va dire que c'est normal parce que si tu veux, on va avoir tendance pendant les 28 premières années de vie à justement à revisiter, tu vois, différents espaces mémoriels suivant le dossier qu'on a choisi dans cette incarnation, tu vois. Donc on va avoir une tendance à tout revisiter, des fois, voilà, à tout remettre sur le bureau, si tu veux, quoi. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait eu effectivement.
Et là maintenant, je suis dans un couple où justement je suis avec un mec qui me démontre ou qui arrive à me tenir ou qui arrive à tenir tête au scorpion de sorte que je me retrouve à intégrer physiquement la plus-value d'être femme dans un couple. Cependant que lui, du coup, a la capacité de manipulation, de violence, de toutes ces choses-là qui sont pas super jolies, l'évitement, etc., enfin, qui fait que, ben, en fait, il y a un transfert d'informations dans mon refus de base de m'impliquer, et lui aussi, en fait, à la base, il veut pas s'impliquer, et du coup, on est tous les deux en écho de nos capacités, en fait, on se retient mutuellement par ce qu'il y a derrière, qu'à la base, on veut pas mettre sur le tapis dans une relation. Du coup, c'est assez particulier, donc tout ce qui est violent chez lui, en fait, ça va me calmer d'une certaine manière. Ça va me soigner de sorte que moi, ça va me donner envie de dépasser la construction que j'ai d'habitude en couple et que je vais avoir envie de mettre mes vraies valeurs dans le couple. Et lui, c'est pareil. Mais lui, il a beaucoup de mal aussi parce qu'il a commencé il y a pas très longtemps. Mais il y a énormément la question. Bon, la sexualité est juste super importante pour reconstruire le corps, pour reconstruire l'affect, etc. Il y a plein de choses qui... Enfin voilà, ça travaille beaucoup à ce niveau-là et c'est clair que c'est central. Après, je pense que tu vas y aller par rapport à Lilith et la lune noire, mais la question de l'enfant. Moi, les astrologues, dans mon passé, m'ont dit... Enfin, c'est plutôt des médiums qui m'ont dit « Toi, t'as toujours refusé d'avoir un couple, d'avoir un enfant, d'être... » Enfin, et là, dans cette vie-ci, t'as envie de te poser, en fait. T'as envie de construire ça. Et voilà, je voulais juste te dire ça, parce que ça fait complètement écho.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que ça part d'un paradoxe, en fait, quoi. Hein. C'est-à-dire que on pourrait même dire que dans les vies antérieures, c'est pas tant le couple qui était l'ennemi, hein. C'est qu'on mettait dans le couple quelque chose qu'on ne trouvait pas. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y avait déjà la blessure d'abandon, comme si, on était déjà dans une forme de frustration par rapport à l'énergie d'amour, donc comme si on recherchait, ou comme si on avait idéalisé la fusion amoureuse, et que d'une certaine façon, le couple ne suffisait pas pour atteindre ce fantasme, tu vois. Et donc, quelque part, le couple était frustrant. Donc au bout d'un moment, on a fini par identifier le couple à l'impossibilité d'atteindre cet amour fusionnel. Et donc on a été le chercher ailleurs, tu vois. Mais quelque part, en fait, et donc on a pu aller chercher dans la passion, on a pu aller chercher dans la sexualité, on a pu aller le chercher dans la multiple relation, tu vois. C'est-à-dire, en fait, effectivement, on a pu aller le chercher aussi dans l'idée d'être sans aucune protection. Tu vois, c'est-à-dire, on dit jamais non, en fait, tu vois, c'est-à-dire, on devient la femme, on va dire, amoureuse par excellence, tu vois, enfin, etc., etc., tu vois, c'est-à-dire, et finalement, derrière, c'est toujours la même force qui est active, c'est combler ce vide, donc aller chercher la fusion pour combler ce vide et surtout pour ne plus ressentir la blessure d'abandon. Le sentiment d'abandon. Et ça, je pense que c'est comme si, dans ces incarnations-là, on n'avait pas eu la possibilité de rechercher cet amour à l'intérieur de soi. Ouais, donc, on était encore dans la dimension d'aller le chercher à l'extérieur. Il était quelque part. Tu vois, il était quelque part à l'extérieur et on allait le trouver. Et donc, c'est comme si on avait couru après un fantasme et que du coup, chaque relation, en fait, qui était trop réelle, on va dire, et trop limitée, devenait frustrante. Donc, si tu veux, c'est ça le paradoxe, si tu veux, quoi. C'est que derrière le refus, entre guillemets, du couple classique, se cachait en fait un fantasme, tu vois. Et c'était pas un refus pur et simple pour être individué, pour être libre individuellement. C'était pas vraiment ça. Et c'est pour ça que ça a été aussi aussi paradoxal et du coup aussi violent, tu vois, parce que il y avait à chaque fois des quiproquos. Hein. Puisque finalement, une relation pouvait très bien démarrer sur la croyance que le fantasme allait se réaliser. Donc, c'est comme s'il y avait, un emballement, où il y avait une excitation, où il y avait tout d'un coup, voilà, on plongeait, on tombait amoureuse, réellement, en fait, avant de se réveiller dans la frustration, ou avant de se réveiller dans la colère, et du coup, effectivement, avant de se réveiller dans le sentiment d'abandon, tu vois. Donc c'est le paradoxe, c'est que quand on se réveillait dans la relation connecté à ce sentiment d'abandon, bah en fait on finissait par se sentir abandonné alors qu'on était en relation. Et c'est là en fait que ça commençait à faire des trucs, soit de l'autodestruction, soit du jugement d'autrui, c'est-à-dire que l'autre n'est pas à la hauteur de mes attentes, donc l'autre n'est pas capable de m'aimer comme j'en ai besoin, comme j'en ai envie, ou alors moi-même, je ne suis pas digne de recevoir cet amour ou de vivre cet amour, etc., etc. Et donc il y avait effectivement une espèce de frustration permanente, et donc une rage, si tu veux, donc interne, tu vois. Donc c'est basé sur un paradoxe, tu vois. Donc là où effectivement certaines personnes vont fantasmer donc la fusion amoureuse et finalement ensuite se satisfaire d'une relation, on va dire normale, tu vois, c'est-à-dire humaine, tu vois, avec des endroits où finalement c'est pas accessible, avec des endroits où c'est pas prêt, avec des endroits où ça pourrait se passer mais ça se passe pas, enfin etc etc. Je veux dire le truc réel, tu vois. Bah là en fait c'est comme s'il y avait un moteur de destruction, quoi. C'est-à-dire on détruit le couple pour aller en chercher un autre, pour aller en construire un autre, en fait. Ok. Hein. Ok. Donc ça c'est une première vision, on va dire. Hein, tu vois. Donc une première vision. Donc effectivement, la sexualité était comme centrale parce que c'était à cet endroit-là qu'on pouvait en fait sentir hein, ou se faire sentir qu'on était en fusion. Donc la recherche de fusion, elle était physique, énergétique, tu vois. Donc elle était sexuelle, tu vois. Et donc effectivement, ça a donné des comportements sexuels qui ont pu aller à la fois du côté du prédateur, parce qu'il n'y a pas que des vies de femmes, hein, donc qui ont pu aller à la fois du côté du prédateur, hein, c'est-à-dire un inassouvissement, si tu veux, qui fait de nous un prédateur, tu vois. C'est-à-dire j'en ai jamais assez. Tu vois, ou alors une forme d'autodestruction et presque une envie de disparaître. Non, et là pour le coup, c'est-à-dire une remise de pouvoir à l'autre qui fait qu'on donne à l'autre le pouvoir de nous détruire. Voilà. Donc, alors ça peut être de la destruction morale ou psychologique, mais ça peut être aussi de l'agression physique. Enfin voilà, donc ça pue aussi, si tu veux. On peut voir des choses du côté d'une forme de nymphomanie avec une tendance masochiste, hein, tu vois. On peut aussi voir les choses avec une tendance boulimique plutôt prédatrice. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc on va dire que t'as et donc derrière tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la blessure d'abandon. Donc il y a une rage en fait. C'est-à-dire que dans l'abandon, il y a deux visages en fait hein, à l'abandon. Il y a le visage de la victime. Et là, on est plus dans le sentiment de manque, le sentiment d'insécurité profond, le sentiment donc d'indignité à l'amour. Enfin voilà, on est vraiment embarqué dans la victime. Donc c'est l'enfant aussi qui a pas eu assez, etc., etc. Mais on peut aussi aller voir toute la rage qu'il y a derrière ce masque de la victime. On peut aller voir toute la rage qui est derrière, et cette rage, en fait, donc liée au manque, en fait, cette rage, bah en fait, ça peut soit se retourner contre soi-même et augmenter le système de la victime. Donc ça devient une victime qui a besoin en plus de se punir. Tu vois, ou alors cette rage, en fait, elle fait basculer dans le bourreau et elle essaye de compenser la victime. Tu vois. Donc Donc voilà, donc c'est, et c'est pour ça que ça a pu osciller entre des comportements finalement plutôt soumis, autodestructeurs et masochistes, et des comportements plutôt prédateurs, plutôt, on va dire, manipulateurs, et plutôt castrateurs, tu vois. Voilà, donc... C'est-à-dire que soit on veut être possédé entièrement par l'autre, soit on veut posséder entièrement l'autre, tu vois, et quelque part à son insu, en fait. Hein, donc voilà, donc il y a. Donc effectivement, c'est là aussi où il y a une nécessité, dans cette incarnation, si tu veux, de cet ascendant Capricorne, puisque le Capricorne est le signe de l'intégrité. C'est-à-dire, c'est le signe qui permet vraiment de sentir lorsqu'on manque d'intégrité. Voilà. Donc, et on voit bien qu'il y a Neptune à l'ascendant, donc c'est vis-à-vis de ce dossier de l'abandon, donc il y a un dossier racine, hein, le blessure d'abandon, qui est un dossier racine de, chez l'être humain, puisqu'il y a un sentiment par le corps physique d'être séparé de quelque chose, d'être séparé d'une partie de soi-même, donc de sa propre source, si tu veux, d'abord de son propre androgyna, tu vois, donc de sa propre complétude sexuelle, mais aussi hein, peut-être d'une part de soi, tu vois, par l'inconscient, par la multidimension, par l'oubli hein, de ses expériences antérieures en tant qu'âme, etc., etc., ou même de l'oubli de l'enfance, enfin bon, plein de choses comme ça. Donc c'est comment je vais pouvoir, donc... quelque part, comment je vais pouvoir grandir vis-à-vis du dossier de l'abandon et comment je vais pouvoir prendre ce besoin de grandir donc au sérieux dans le sens d'une construction une construction raisonnée, j'ai envie de dire, une construction structurée vers la redécouverte de l'amour de soi. Donc la redécouverte de sa propre libido. Comment je fais pour me rebrancher sur ma propre sexualité? Comment je fais pour me rebrancher sur ma propre source? Et comment je fais aussi pour retrouver la sérénité, hein, c'est-à-dire l'amour de moi? Et donc cet amour inconditionnel, c'est-à-dire cette zone où il y a un amour inconditionnel de soi. Donc effectivement, comment je fais pour retrouver le contact avec ma source ou avec ma source féminine, mais tout en restant dans mon axe, voilà, tout en restant dans mon axe, tout en restant dans ma verticalité, et pas fuir, on va dire, dans quelque chose de spirituel où on se mettrait à l'écart du monde, ou ne pas fuir aussi comme l'enfant qui se blottit chez l'amour de l'autre ou dans l'amour de l'autre, tu vois. Ou qui dirait non à l'amour, qui serait aussi dans la notion de l'amour n'est pas pour moi, tu vois. Donc du coup il faudrait que je m'en affranchisse, etc., etc. Ok. Alors maintenant effectivement quand on regarde cette lune au nœud sud, on comprend bien que de toute manière c'est toute l'histoire du rapport à la mer qui est racontée ici. C'est-à-dire que ce qui s'est vécu dans d'autres incarnations, plutôt sous la forme de ton rapport avec la source elle-même, source d'amour, ça s'est recontracté dans cette incarnation avec la mère biologique. Tu vois, et donc là, on voit bien qu'il y a eu des manipulations psychologiques, on voit bien qu'il y a eu des humiliations, on voit tout le système, si tu veux, en fait, c'est-à-dire, en fait, toi, t'es arrivé avec des systèmes de pensée qui, d'un côté, je ne mérite pas l'amour, je suis une mauvaise femme, enfin voilà, je ne mérite pas l'amour, tu vois, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un d'aimable, en fait. Donc, du coup, il y a une impossibilité, finalement, d'être aimé dès le début. Donc effectivement, c'est comme si on attirait un petit peu la haine de l'autre, tu vois. Donc ça, c'est toute la partie masochiste. Et en même temps, il y a aussi le truc de, pour ne pas recontacter la blessure d'amour, il faut surtout pas que je sois dépendante. Tu vois, donc il faut que je reste quelque part. En fait, c'est comme si en fait le lien à la mer, il a pas pu s'établir. Tu vois. Donc Il y a un endroit en fait où ça n'a pas pu se brancher, on va dire quoi, hein. À la mère, mais aussi au clan d'ailleurs, hein, même à la famille elle-même. Hein.
Ah oui, non, il y avait absolument aucun lien. Je me suis retrouvée dans l'idée de Lilith dans la maison de la Balance. Ouais, j'étais vraiment complètement coupée de absolument tout.
C'est ça. C'est ça. Alors, donc, je regarde un petit peu. Oui, c'est ça. Donc, alors, attends, hein, je regarde.
Les étoiles, oui. Chiron, Junon, tous ces trucs-là, tu les vois où? Tu les vois comment?
Bah justement, alors le paradoxe, c'est que t'as Junon à l'ascendant, en fait. Donc c'est ton astéroïde fort là, en fait, hein. Donc on a Junon, effectivement. Je vois pas les autres. Attends, ici la Cérès est là,
C'est celui qui est à côté
Pallas est là. Oui,
de
c'est
Lilith
ça.
aussi.
Oui. Alors ça c'est Chiron. Oui, ça c'est Chiron.
C'est l'étoile, non?
Alors non, Chiron c'est un planétoïde, c'est pas un astéroïde, c'est un planétoïde entre Saturne et Uranus. Alors ici, oui, effectivement ici on voit. Alors attends, donc on est en Sagittaire ici, oui on est en Sagittaire, on a Saturne qui est à 12 degrés à peu près Sagittaire ici, donc ça fait 14 degrés. Hein. Donc Gémeaux ici, hein. Voilà. Donc oui, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement, oui, on voit bien que y a eu de toute manière une tendance. Enfin, je veux dire, il y a pas mal d'incarnations. Si tu veux, alors je vais reprendre les incarnations antérieures pour voir un peu une chronologie là-dedans, si tu veux, parce qu'il y a eu plusieurs strates. Hein. Donc du coup, dans la chronologie. C'est d'abord l'histoire d'une femme, ou en tout cas d'un féminin qui cherche à s'émanciper. Cette émancipation passe par le fait de couper avec sa propre famille, pour vivre, les choses au-delà de l'horizon familial, des obligations familiales, des contraintes familiales. Donc ça veut dire que bien souvent les jeunes filles on les mariait un peu de force quoi, hein. C'était donc du coup c'était ce que je veux dire le destin on va dire des individus il y a quelques siècles il était totalement pris en charge ou pris en main par la famille bien souvent hein. Par la famille et puis le niveau social enfin voilà il y avait des règles qui étaient préétablies on va dire donc du coup dans les premières demandes d'émancipation bah en fait d'une certaine façon comment dirais-je, peut-être parce qu'il y a eu des incarnations dans lesquelles justement on s'est senti mourir presque en relation, on s'est senti abandonné, tu vois, dans la relation ou dans le couple, bah en fait finalement on a voulu s'extraire de ce destin, de cette soi-disant obligation. Sauf que en s'extrayant comme ça, en cherchant à s'extraire, on a perdu aussi tous les avantages sociaux. De la soumission quoi, c'est-à-dire en fait, ben il n'y avait pas le mari donc il n'y avait pas la protection physique, il n'y avait pas peut-être le statut social, il n'y avait pas la possibilité de gagner de l'argent, on va dire légalement, tu vois, donc il a fallu survivre, tu vois, et donc c'est là qu'ont commencé des incarnations dans lesquelles on a pu manipuler hein, donc avec les sentiments, avec le désir sexuel, etc. C'est là aussi qu'on a pu convenir de certaines relations. Mais pour des raisons financières ou des raisons matérielles ou des raisons personnelles, cachées, tu vois. Et c'est là qu'on a commencé à basculer. Donc c'est là aussi qu'on a pu commencer à se marier avec quelqu'un qui avait une situation alors que finalement on continuait à avoir des relations sexuelles plutôt amoureuses en parallèle. Enfin voilà, c'est là qu'on a commencé à structurer, si tu veux, une relation basée sur un double comportement. Comportement apparent et un comportement caché, hein, tu vois. Et donc, sauf que ça a pu ne pas toujours bien se passer, hein, tu vois. Donc, il y a pu avoir le mari jaloux, il y a pu avoir des crises, il y a pu avoir aussi, finalement, le mari qu'on tente d'éliminer, hein, enfin voilà, tu vois, qui devient le gênant, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, c'est comme si on avait accumulé, si tu veux, des jugements de soi-même. Enfin, tu vois, comment dire, une mauvaise image de soi-même, tu vois. Et c'est comme si, alors qu'on recherchait l'amour, et alors qu'on cherchait à se reconnecter à l'amour de soi, un amour plus plein de soi-même, un amour plus grand de soi-même, donc alors qu'il y avait ce fantasme, on va dire, de plus d'amour, on était en train de se couper de l'amour de soi. Tu vois, et donc du coup, ça a créé un écart, si tu veux, entre le fantasme, c'est-à-dire avoir toujours plus d'amour, connecté à quelque chose de toujours plus grand, et en même temps, une capacité à recevoir l'amour, ou à sentir l'amour, ou à reconnaître l'amour en soi, de plus en plus amoindrie. Hein, tu vois. Et donc, c'est là qu'on a commencé à créer des écarts.
Ouais.
Tu vois, sauf que ça a pu conduire à des incarnations dans lesquelles le féminin s'est carrément fait, c'est-à-dire que ça s'est retourné, c'est-à-dire que là, on avait affaire à une tendance émancipatrice, manipulatrice, et ça s'est retourné dans le sens d'une autodestruction, dans le sens de devenir l'objet, quoi, tu vois. C'est-à-dire à force de projeter l'objet sur l'extérieur. On a fini par devenir ce qu'on faisait aux autres, tu vois. Donc un objet manipulé, un objet de désir et de fantasme, un objet qu'on ne rencontrait pas vraiment profondément, mais dont on se servait en fait, tu vois. Et c'est là que en fait on a, je pense que on a pu se faire très mal, tu vois. Ok.
Mais concrètement, Junon et tout ça, ça parle de quoi en fait ?
On voit en fait ici que le paradoxe justement, c'est qu'effectivement dans cette incarnation, c'est comme si on était venu retrouver la dimension de l'épouse, tu vois. Alors, donc, parce qu'on voit Junon à l'ascendant, donc il y a vraiment quelque chose en fait c'est-à-dire que l'ascendant Capricorne, si tu veux, il donne la nécessité de la sécurité. Et pour le coup, d'une sécurité sociale, en fait, hein. Donc c'est pas une sécurité identitaire, une sécurité, en lien avec le groupe d'appartenance, quelque chose de durable, si tu veux. Donc quelque chose qui s'approfondit avec le temps, qui mature et qui grandit avec le temps, en fait. Alors qu'avant, on était plus dans la dimension de l'assouvissement des pulsions ou de l'assouvissement d'un fantasme, tu vois. Donc c'était plus, on va dire, mental, émotionnel mental, tu vois. On était plus dans une dimension émotionnelle mentale. Et c'est là qu'avant, on trouvait finalement la dimension émancipatrice parce que c'était de la passion, parce que tout d'un coup, on sentait exister, tu vois. Mais c'est comme si, en fait, on allumait les feux de paille et que on s'est rendu compte a posteriori qu'en fait un feu de paille ça éclaire un quart d'heure, alors qu'une torche finalement ça pète moins, mais ça peut éclairer toute la nuit, tu vois. Donc du coup voilà, c'est comme si on avait eu besoin de s'affranchir d'un certain modèle de couple, aller voir ce qu'il y avait à l'extérieur de ce modèle. Je pense qu'on a, comme on était basé sur un fantasme et sur une grosse blessure d'abandon, on a recherché de façon compulsive des fusions amoureuses ou des fusions passionnelles, etc., etc. Là-dedans, on s'est perdu, en fait, et ça a pu donner de la prostitution, ça a pu donner, tu vois, de l'autodestruction, quoi, en fait, hein. Et puis finalement, c'est comme si dans cette incarnation, en fait, on avait décidé de régler la cause de tout ça. Et la cause de tout ça, c'est pas du tout la sexualité, j'ai envie de dire, c'est la blessure d'abandon. Tu vois.
Donc, ah ouais, mais.
La sexualité, c'est le moyen qu'on avait trouvé jusqu'ici pour échapper au ressenti de l'abandon. Mais aujourd'hui, on va dire que si on remet les choses dans l'ordre, c'est parce que on va se reconnecter à sa propre source, donc quelque part à son énergie sexuelle, à sa propre énergie sexuelle, c'est parce que on va libérer l'énergie d'amour à l'intérieur de soi, donc effectivement de façon autonome, qu'on va ensuite pouvoir entrer dans une relation évolutive. Puisqu'effectivement, en fait, il s'agit ensuite d'apprendre, on va dire, à le vivre à deux, ou à le vivre dans la réalité, à le vivre dans le corps, tu vois, avec l'autre, tu vois. Donc du coup, c'est comme si dans cette incarnation, on faisait plutôt le choix de la relation suivie ou de la relation durable, pour justement aller s'éprouver dans cette dimension. Je peux tenir donc debout seul, et en même temps je peux atteindre avec l'autre des espaces inatteignables pour moi-même. Tu vois, donc c'est-à-dire je vais jouir des deux avantages. Donc tenir debout toute seule, donc c'est-à-dire redéployer ma propre énergie d'amour aux endroits où il y a de l'insécurité, aux endroits où d'habitude j'allais chercher à l'extérieur une compensation à mon vide intérieur. Donc ça, je le gère pour moi-même, et notamment je le gère par la dimension sociale et professionnelle, c'est-à-dire le sentiment d'avoir un certain pouvoir de rayonnement. Tu vois, c'est-à-dire de me rendre désirable, on va dire, de me rendre active, de me rendre participante dans le monde, et d'une façon lumineuse, tu vois. Voilà, d'une façon lumineuse, et plus d'une façon cachée ou taboue ou transgressive ou voilée, quoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que du coup, parce que je tiens debout, hein, dans ma verticalité, parce que je suis autonome socialement et donc financièrement aussi, c'est-à-dire matériellement, voilà, socialement et matériellement, et donc quelque part en fait, je suis autonome à cet endroit-là, donc je vais pouvoir me reconstruire dans mes espaces affectifs personnels, je vais pouvoir me reconstruire dans mes espaces libidinaux personnels, et ensuite la relation de couple exclusive, ou la relation de couple suivie, ou la relation de couple avec du respect mutuel, etc., bah, devient un cadre dans lequel je peux explorer des nouveaux espaces. Tu vois, donc c'est un changement de paradigme, puisque avant, on considérait que c'était le couple qui empêchait donc la réalisation personnelle, ou qui empêchait de contacter justement l'amour à des niveaux plus profonds.
Oui, je comprends bien. Et tout ça, c'est vraiment, d'une certaine manière, c'est passé, ça a été accéléré ces deux dernières années. Je sais pas si tu te rappelles, en fait, c'est assez marrant parce que à partir de, je sais plus quand. Ah ouais, bah à partir du moment où, en fait, à partir de 28 ans, il me semble. C'est là que j'ai commencé à avoir tous les rêves de trucs de culture dans le passé, d'avoir des informations. Et il y avait ce truc de mandala, où je me retrouvais dans le mandala, là, et puis je regardais, j'étais nue. Je regardais au nord. Je savais que je regardais au nord. Je savais pas ce que c'était un mandala, j'en avais encore jamais vu. Hein. Dans 8 ans, ça arrive, on sait pas ce que c'est un mandala. C'était mon cas, en tout cas. Puis j'avais déjà commencé à me connecter à la vibration du ciel, à la sentir et à me sentir transformée par ça. Et puis donc je me retrouve dans ce mandala, et je regarde au nord, je sens les vibrations, tout va bien, j'étais au centre. Mais pour moi, c'était pas j'étais au centre dans le rêve, c'était juste normal. Je me suis pas rendu compte de ce que je faisais. Et puis toutes les portes se sont fermées, et puis je me suis dit, ah bah tiens, mais c'était, il y avait aucune émotion ou quoi que ce soit, je me dis, ah bah tiens, je suis morte. Et puis là, il y a la porte de gauche qui s'est ouverte, la porte de l'ouest.
D'accord.
Et ça a été super fort, parce que je crois, en plus, je me suis rappelé il y a pas longtemps, je crois que avant que les portes ne se ferment, j'ai regardé à droite. Les portes étaient ouvertes, j'ai regardé à droite, puis les portes se sont fermées, je me suis dit, bon, je suis morte, puis la porte de l'ouest s'est ouverte. Et ça a été assez fort. Et puis, à partir de là, bon, ben, c'est là que j'ai développé un peu tous mes outils de par rapport à l'inconscient, par rapport au corps, par rapport à tout ça, mais avec dans l'optique de mettre ça dans le concret toujours. C'est comment on fait pour amener les informations de l'inconscient à la réalité, pour pouvoir matérialiser, densifier, pour pouvoir retrouver effectivement des espaces. Mais c'est en sensation de présence du corps, en sensation de communication. Enfin, il a fallu que je construise ça, quoi. Et après, quand je me suis retrouvée dans mes relations, parce que je me suis retrouvée d'abord en relation avec quelqu'un qui a Lilith en Capricorne dans le poisson, ou en poisson dans le Capricorne. Donc déjà ça a été une sacrée claque pour m'enraciner. Je crois que c'est là que j'ai reconnecté avec la sensation de tiens, le mariage, qu'est-ce que c'est ? Et que j'ai accepté de me poser dans la relation. Enfin, dans le sens où je me sentais être avec quelqu'un. Après, il me manquait quelque chose, il me manquait la dimension du rêve. Il me manquait la dimension de la vision, il me manquait la sensation de la beauté.
Ouais.
La parole. Le langage de la beauté, de la poésie, etc. Et ça a été douloureux. Et ma solution par rapport à lui, ça a été de dire, bon, écoute, peut-être qu'on peut créer des situations où je suis avec d'autres personnes et où tu es là et où tu comprends ce besoin. et où tu comprends ce qui se passe, où tu peux peut-être partager. Moi, j'étais toujours dans le tantrisme, le serpent, depuis que je suis petite. Le serpent, il est là dans toutes mes perceptions. Et pas dans la dynamique de pouvoir, mais dans la dynamique d'intelligence structurelle de la matière, de quelque chose, sans comprendre ce que c'est plus concrètement. Mais quand je regarde le thème, moi, je le retrouve vraiment dans Neptune lié à l'ascendant, le côté structurel de la communication ou du langage cosmique, d'une certaine manière. Enfin, moi, je le ressens quand je vois le thème, je le vois comme ça, très fort. Et en même temps, le besoin de passer par l'autre côté. Et là, j'ai rencontré mon compagnon, enfin, l'actuel, au tantrisme. Et là, c'est la dynamique, enfin, c'est Johnny Depp, quoi. C'est la destruction, mais c'est tout le panel du rêve qui vient réincarner le corps pour se remettre dans les sensations physiques à travers ça. Mais c'est aussi une vision de la relation qui est pas déconnectée, mais qui est ouverte. Enfin, elle n'est pas faite. C'est-à-dire qu'elle existe à travers la poésie de l'univers, d'une certaine manière, ou à travers la beauté en général. Pas à travers la sienne ou la mienne. C'est, voilà. Après, il a beaucoup de défauts, c'est pas la question. Mais c'est le fait d'avoir eu ce cocktail-là de l'un qui a toutes ses énergies, mais vraiment, il ressemble. Enfin, quand il était petit, il avait peur des géants dans l'océan, quoi. Enfin, il est vraiment dans la structure par rapport à ce truc-là. Enfin, il a sa porte ouverte, les champignons. Enfin, il est complètement dans le Capricorne de poisson, quoi. C'est hallucinant. Je crois même qu'il a Vénus connectée à Lilith chez lui. Et puis mon compagnon actuel qui est complètement. Enfin voilà, il touche et puis il fait vivre. À chaque fois qu'il touche quelqu'un, t'as la personne qui respire, t'as l'espace intérieur qui est à nouveau perçu dans la douceur, dans l'amour intérieur. Mais il n'y a pas cette dimension de sécurité, la dimension du Capricorne, bien qu'il ait le sud en Capricorne dans le Lion, ou en Lion dans le Capricorne. Non, qu'est-ce que je dirais? Oui, c'est ça, Capricorne dans le Lion, je crois. Mais voilà. Et en fait, c'est le lien entre les deux. Parce qu'à partir du moment où je me suis retrouvée avec mon copain actuel, là, j'ai commencé à utiliser, bah, comme tu sais, les plantes. Ouais. L'ayahuasca, j'ai rencontré la belladone, j'ai rencontré tout ça. Et l'actuel, donc il s'appelle Marvin, mon ex s'appelle David, l'actuel. Et c'est vraiment... C'est-à-dire qu'entre les deux relations, il y a eu une porte. Et quand cette porte s'est ouverte, en fait, les deux ont voulu un enfant de moi au même moment. Et c'était horrible parce que c'était... j'ai vraiment l'impression, enfin, j'ai toujours ce symbole du cercle coupé en deux. Et du scarabée. Le scarabée, il revient aussi tout le temps dans ma vie. Quand j'étais petite, j'ai eu une vision d'une coccinelle bleu ciel, quoi. Mais avec les yeux ouverts, quoi. J'étais en train de jouer dans la cour de récré, j'ai vu une coccinelle rentrer dans une bouche d'égout, quoi, bleu. Mais elle n'existait pas. J'en suis quasi convaincue, en fait. Mais c'est juste un clin d'œil, je pense. Mais voilà. Et ce truc des deux parties qui se font écho. En fait, plus le temps passe, parce que je ne fais pas que travailler avec des atypiques ou des autistes ou quoi. Maintenant, je travaille avec des personnes qui sont en asile psychiatrique, qui me parlent de la mort, qui me parlent de comment ils construisent leur corps, de comment ils considèrent qu'ils l'habitent ou pas, de qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment on crée un langage ensemble, qu'est-ce que c'est que les masques, qu'est-ce que c'est que l'extérieur, etc. Du coup, je les accompagne par des dimensions de rêve, par des dimensions structurelles. Et en fait... Hier ou avant-hier, j'ai rencontré un type qui accompagne les atypiques, les autistes, depuis qu'il a 12 ans. Il a toujours eu ce truc-là de savoir comment, quel truc toucher pour que le langage se libère. Et un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est l'intelligence. On a tous en tant qu'humain une partie d'intelligence des plantes. Et j'ai halluciné. Je me suis dit, d'accord. Parce que pour moi, la question de l'intelligence des plantes, c'est le cerveau reptilien, quelque part. Et c'est vraiment la force. De cette structure de Capricorne Poisson, mais je peux pas être que là-dedans parce qu'effectivement, pour moi, il y a aussi l'aspect émotionnel, l'aspect intime, l'aspect intérieur, le fait de recevoir, et les deux vont ensemble. Mais ils ont été séparés dans mes expériences, mais c'est mieux parce que sinon j'aurais pas su les prendre. Et là, c'est vraiment de faire le lien entre les deux. Quand je suis en face de quelqu'un, il faut que j'arrive à rêver, donc être dans la vision commune, en perception, en sensation. Tout en intégrant qu'il y a une intelligence derrière qui est l'intelligence cosmique et qui n'est pas mesurable en tant qu'intelligence morte ou vivante, mais qui est un input et que la personne qui vit, qui se structure à l'intérieur d'elle-même, elle construit son espace de rêve, elle construit sa manière de recevoir justement la lumière, l'amour, de pouvoir se connecter aux autres, etc. Et donc je suis là-dedans en fait. Je suis vraiment vraiment là-dedans. Il y a aussi le processus de créer un truc d'e-learning pour les personnes atypiques qui est intelligent, qui part du chaos pour enfin voilà, et avec des, je suis en lien aussi avec des neuropsies, etc. Enfin, c'est vraiment et c'est presque trop. Je disais ça à un pote l'autre jour, je lui disais, mais en fait c'est comme si, parce qu'il me disait, ouais, en fait on peut arriver à quelque chose et puis finalement sur le chemin on trouve autre chose. Je lui dis, c'est marrant, moi j'ai l'impression d'avoir fait exactement l'inverse. J'ai l'impression d'avoir accès à une espèce d'information de ce que je contiens, et puis de me sentir libre, de me sentir de me lâcher dans le réel d'une certaine manière. C'est genre, avec ça je peux voyager, je peux me sentir effectivement, j'ai pas besoin de l'autre. Moi j'ai jamais été, enfin je suis pas quelqu'un qui tombe amoureux facilement. En fait j'ai été en lien avec 3-4 personnes vraiment dans ma vie. Et globalement, j'ai jamais, enfin, j'ai toujours rejeté les, enfin, voilà, ça m'a toujours dérangé, dégoûté. Enfin, au départ, c'était des réactions physiques très très fortes, quoi, le contact physique, etc. Autant il y avait un énorme désir. Alors, en même temps, voilà, au niveau de la communication, de la structure, enfin, j'ai dû créer tous mes outils pour me sentir en sécurité avec le langage universel, quoi, de me dire, ok, c'est structuré. Que les gens pensent différemment. J'ai vraiment dû comprendre, faire l'expérience, créer des outils pour comprendre comment c'était foutu, pour que ça puisse bouger. Là, et peu importe ce que je fais, quand je fais des ateliers avec des enfants, parce que ça je fais aussi, il y a chaque fois des serpents. J'ai trouvé un scorpion dans la rue l'autre jour et un serpent empaillé, quoi. Je me suis dit, mais merde. Enfin, le serpent, il est là tout le temps. Le chef du centre, qui s'appelle Nord-Ouest, donc tu regardes mon thème, hein.
Ouais.
Le chef du centre connaît, c'est un ami. Un très bon ami à Daniel Audier, mon maître tantrique. Donc le tantrisme, ça a été la clé par rapport à, ben, par rapport, enfin, l'idée des corps qui se mélangent, c'était l'aspect des rêves, etc. J'avais besoin de l'expérimenter. Et dans un rêve, après avoir fait ce stage, j'ai vu que Daniel Audier se transformait en un serpent transparent, gigantesque. Et puis après, j'ai pris l'ayahuasca. Et chaque fois que je reprends une plante, j'ai acheté une plante, c'était du mimosa, je savais pas quoi. Et je voulais. Et après, j'ai rêvé de l'ayahuasca. Enfin, c'est un truc de fou. Je te jure, j'ai l'impression d'être dans une structure. Je me sens presque prisonnière de cette question qui en plus est fort liée au poison. C'est quelle dose de poison va me faire réveiller? Parce que c'est pas parce qu'il y a du poison que c'est pas dans le lien. C'est quelle dose de poison me permet de sentir que moi je dois faire ressortir une source qui est la mienne. Et ça c'est super fort parce que du coup ça me stabilise et ça me met en confiance avec la source de poison plus que l'opposé. Et ça c'est tout le truc de la relation actuelle aussi. Alors je dis pas que ça va continuer à l'infini, mais moi c'est la perception que j'en ai. Surtout que le fait que l'élite soit exactement entre le cancer et le gémeaux aussi, il y a quelque chose de créer quelque chose dans la question du cercle et de la séparation. Enfin, c'est comment est-ce qu'on est dans son intimité et dans le jeu et dans la liberté mentale et dans le ludique en moi, lié à tout ce qui est émotionnel, lié à tout ce qui est, ouais, émotionnel, mais je sais pas comment dire, un truc, enfin bon, voilà. Et c'est les deux en fait, c'est comment relier le rêve, la liberté du rêve, donc la connexion à son amour intérieur, je pense que c'est fort lié, et la structure universelle qui peu importe que soit mort ou vivant, c'est comme on change de corps, on meurt, notre énergie elle se transforme, enfin on continue d'être modem communication se relie à tout ce qui existe, donc il y a quelque chose qui pour moi entre les deux vacille, mais qui est tendu, quoi, c'est fort le lien entre les deux. Et je me dis, parce que j'ai l'impression que je dois créer quelque chose, je dois construire quelque chose, que je dois aller plus loin. Et en fait, j'arrive pas à cibler, à mettre la main. Je me dis, est-ce que je dois faire de la neurologie maintenant? Est-ce que je dois faire psy et puis continuer en neuro? Est-ce que je dois. Je suis. Enfin voilà. Je sais pas. Je suis un peu perturbée parce que c'est solide, quoi, cette histoire.
Bah, c'est-à-dire que quand on regarde le thème, on aurait plus tendance à dire que c'est en partant du présent, c'est-à-dire en partant donc de l'émotion, si tu veux, du ressenti dans le présent que tout peut s'ouvrir. Tu vois, c'est-à-dire que ici, c'est pas un thème dans lequel en fait on a besoin de reconstruire tout depuis la naissance. Tu vois, c'est un thème où on va plutôt en fait utiliser un peu la porte magique de l'instant, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que si comment on va dire ça, si on applique un modèle théorique sur l'être humain, oui, on va rentrer dans un processus, tu vois, avec des étapes, on va dire. Sauf que d'une certaine façon, ici dans ce thème, c'est pas vraiment la voie à suivre. La voie à suivre ici, c'est plutôt je sens ce qui est actif, je sens ce qui est résonnant, ce qui vibre là maintenant. Et c'est en étant à l'écoute de ça, ça peut être le désir présent, ça peut être donc le rêve présent, ça peut être le ressenti présent, ça peut être la situation présente, hein, et c'est comme si je vais faire confiance, je vais dire bah ça représente l'ensemble en fait. Et donc si on écoute ça, si on laisse de la place à ça, si on donne de la place à ça, si on donne de l'espace à ça, et si on permet à ça de se mettre en mouvement, peut-être de s'exprimer à travers le corps, à travers les mots, à travers l'imagination, ben en fait, c'est là que ça va être intense, tu vois, et c'est là que ça va être réel, tu vois. En fait, tout le thème ici consiste à passer de l'idéal ou du rêve ou de la projection ou de l'attente à la réalité. Tu vois, au vécu, à l'expérience, tu vois. Alors, donc du coup, je pense que c'est vraiment, c'est pour ça que passer par la globalité du corps, c'est-à-dire que le corps parole, le corps pensée, mais aussi le corps acte et mouvement, c'est bon, tu vois. C'est-à-dire tout ce qui va permettre, si tu veux, d'intégrer les différents pôles d'un être humain, donc son pôle actif, émetteur. Je décide de mon mouvement, je décide de ma parole, et son pôle réceptif, tu vois, accueillant, c'est-à-dire je laisse les choses me toucher, je laisse les choses me faire vibrer, etc., etc., tu vois. Alors, il y a peut-être quelque chose sur lequel je voudrais venir, peut-être parce que c'est peut-être important de comprendre quand même si c'est un retour sur le passé, c'est quand même important de revenir, parce que quand on voit cette lune au nœud sud, on se dit que l'origine de la problématique, c'est la mer, tu vois. Donc c'est le lien à la mer. Et donc je vais exprimer ici, donc par rapport à la lune noire, parce que c'est la lune noire qui montre, elle est en cancer, donc elle est dans le signe de la lune, donc elle montre, la lune noire montre qu'est-ce qui s'est vraiment vécu derrière la relation apparente à la mer, c'est-à-dire derrière la relation visible à la mer. Qu'est-ce qui s'est vécu profondément, en fait. Et donc là, il y a quelque chose de très archétypal, avec la lune noire, c'est très archétypal. C'est-à-dire que l'enfant, si tu veux, naturellement, le bébé, hein, que ce soit l'embryon, le fœtus, le bébé, le nouveau-né, etc., l'enfant en bas âge, va considérer son parent comme tout-puissant. Il va considérer son parent comme divin, tu vois. Donc, ouais. Et ça, il y a tellement d'angoisse, si tu veux, face à l'inconnu, que c'est une nécessité pour un être humain, c'est de considérer que les gens qui s'occupent de lui sont tout puissants. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont le protéger, ils vont le nourrir, ils vont lui, voilà, ce sont des dieux, en fait. Et ça, c'est une fonction rassurante, instinctive. Puisque l'enfant est totalement dépendant du parent, et notamment donc de la mère, de la mère même avant le père, bah en fait, le mieux pour l'enfant, c'est de considérer la mère toute, toute puissante, c'est-à-dire une déesse, c'est une déesse. Donc, effectivement, comme c'est une déesse, elle a donc accès à l'amour divin, donc l'amour inconditionnel, et si jamais l'enfant n'y a pas le droit, c'est-à-dire si l'enfant ne ressent pas cet amour, ça ne peut pas venir du parent. Et donc, c'est-à-dire que c'est plus tard, tu vois, plus tard quand l'enfant va arriver à 4, 5 ans, 5, 6 ans, 7, 8 ans, etc., il va remettre en cause cette croyance infantile. Mais dans le premier niveau de relation, la mère est connectée à l'amour inconditionnel, à l'amour divin, à l'amour de la source, et donc L'enfant, en fait, hein, il a la possibilité d'avoir cet amour si et seulement si c'est quelqu'un de bien, si c'est un bon enfant. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde cette lune noire en maison 7? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un déchirement, on va dire une séparation, où il y a eu une dualité entre l'idéal de la mère, donc cet idéal de toute puissance, cet idéal de tout amour, donc c'est la mère parfaite. Voilà, la mère parfaite, hein, la mère divine, la mère parfaite, et elle a existé dans l'inconscient de l'enfant. Voilà, elle a existé, en fait, elle est réelle pour l'enfant. Elle doit être réelle pour l'enfant. Et ensuite, toute la réalité. Hein. Et donc, ici, en fait, et tout le jeu de manipulation de la mère consiste à faire croire à l'enfant que si l'enfant n'a pas l'amour de la mère, c'est qu'il ne le mérite pas. Et donc, c'est qu'il n'a pas...
Elle l'a dit texto.
Oui, non, mais
elle
clairement.
Elle a dit, tu ne m'aimes pas comme il faut, alors je ne t'aime plus.
Exactement. Et là, c'était la lune noire qui parlait. Et voilà, la typique, tu ne m'aimes pas comme il faut, hein, alors...
Alors je ne t'aime plus.
Alors je ne t'aime pas, alors moi je ne peux pas te donner mon amour. Et donc, voilà, c'est-à-dire que là, voilà. Et c'est là, en fait, que y a une dichotomie, enfin, y a un fossé qui se crée entre l'image idéalisée de la femme... donc de la mère, donc du féminin, et elle est double, puisque on a projeté ça sur la mère, mais on a projeté ça aussi en tant qu'enfant, c'est-à-dire je dois avoir un comportement idéal envers ma mère pour mériter l'amour de ma mère, et l'amour de cette mère parfaite. Donc voilà déjà comment s'est constitué le fait de la frustration dans la relation mère-fille. C'est-à-dire que à l'endroit où l'enfant aurait pu dire ma mère n'est pas capable de m'aimer à cet endroit-là, l'enfant n'a pas dit ça. Il a dit ma mère est tout à fait capable, elle est parfaite, mais à certains endroits, c'est moi qui ne suis pas assez bien, qui ne suis pas à la hauteur de l'idéal de la mère parfaite. Donc, qui dit mère parfaite dit aussi enfant parfait. En tout cas, voilà. Donc, je ne peux pas recevoir l'amour de la mère, donc ma partie féminine réceptrice n'est pas à la hauteur de cet idéal féminin que je projette sur ma mère. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... La base, ça c'est la base. Comprendre ça, c'est la base, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, donc, même si après tu as lutté contre cette image idéale, même si après tu as pu trouver tous les défauts du monde à ta mère, etc., etc., il y a des parties de toi qui restent attachées à cette vision de la mère idéale. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te permettait de survivre à l'angoisse. Et donc, quelque part, l'angoisse, c'est l'angoisse de l'abandon. Et bah, c'est-à-dire que si ma mère ne peut pas répondre à mon besoin d'amour, je suis abandonné par la source. Rien ne va plus, quoi. Et là, c'est la mort, quoi. Si un enfant n'a pas d'amour, c'est la mort. Donc c'est okay, une question de survie.
Comment pour enlever ces parties-là qui craignent?
Alors attends, donc on va voir comment s'est construit ça. Ça c'est le premier truc qui s'est construit. Ensuite, effectivement, on a bien compris que tout le jeu relationnel mère-fille s'est opéré sur l'idée de la manipulation, c'est-à-dire la mère va faire de cet amour inconditionnel une espèce de carotte, tu vois. C'est-à-dire que si tu te comportes bien, si tu m'aimes suffisamment, si tu te comportes bien, si tu es à l'image de cette femme parfaite, cette mère parfaite, alors tu auras mon amour. Sauf qu'en fait, il y a eu deux cas de figure. Soit l'enfant n'a pas réussi à atteindre cette condition, il n'a pas réussi à valider cette condition, résultat, il n'a pas eu l'amour. Voilà. Et donc, du coup, pour le coup, c'est parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Ok. Donc, il ne mérite pas, il n'est pas digne, etc., etc. Mais parfois, tu as été, tu as obéi quelque part, c'est-à-dire tu as fait comme on te disait, sauf que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si le contrat de base, ensuite, c'était comme si, ah bah ouais, mais non, parce que, c'est-à-dire, t'avais beau faire exactement ce qu'on attendait de toi, ça ne marchait pas non plus. Tu vois, et à cet endroit... Voilà. Et à cet endroit-là, en fait, toi, tu as interprété que de toute manière, ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas atteindre, donc, cette femme idéale, cette mère idéale. Donc,
c'est... Comme... De ma mère, j'ai vraiment tout eu. Hein. J'ai dû l'assister dans ses avortements. Elle a couché avec des hommes devant moi. de la torture toutes les nuits, c'était de la manipulation jusqu'à ce que je perde complètement les pédales. C'était pas pour de rire, quoi. C'était vraiment de la torture totale.
Non, mais voilà. Complètement. Hein. Donc, c'est une forme de folie, hein.
C'est de la folie.
C'est une forme de folie, voilà, c'est, et donc, le, mais ce qu'il faut comprendre pour toi, en fait, c'est que, c'est quoi cet idéal, en fait? C'est un idéal de fusion avec l'énergie d'amour dont la mère est la gardienne, tu vois, dont la mère idéalisée est la gardienne. Et donc, ouais, c'est la capacité à jouir, c'est la capacité à être dans le plein abandon de soi, à l'énergie d'amour, donc c'est la jouissance, c'est la définition même de la jouissance. Donc, dans le rapport à la mère, en fait, d'une certaine façon, en se rendant inaccessible à l'enfant, en faisant en sorte que l'enfant, même s'il fait tout ce qu'il peut, ça ne marche pas, c'est-à-dire en humiliant l'enfant, etc., etc., en lui faisant croire des choses qui sont fausses, etc., des fausses promesses, et ta. C'est-à-dire que finalement, ça a abîmé ta capacité à te valider ou à te satisfaire de toi-même, donc à t'autoriser à jouir. Puisque effectivement, voilà, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait l'enfant, il va s'autoriser quelque part à jouir, c'est-à-dire à apprécier ou à valider ou à se satisfaire de son vécu, donc à se détendre, tu vois, c'est-à-dire cette espèce de décharge, le moment où il dit ouais, yes, je l'ai fait, quoi, tu vois, yes, j'ai réussi, voilà, et même des petites choses, et ben en fait ça ouvre la porte de la jouissance. Donc parce que toi tu n'as pas réussi à satisfaire cette mère idéale, donc tu n'es pas capable de faire jouir la mère, et parce que toi tu n'as pas été capable de valider l'attente de la mère, tu ne t'autorises pas à jouir, hein, non plus, hein, tu vois. Et donc du coup il y a une problématique, c'est que dans ton inconscient profond il y a une carotte, ou il y a une condition à la jouissance, c'est d'être une femme idéale. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, en fait, que ça commence c'est là que ça, si on projette ça dans la relation de couple, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le...
En fait, ça a été avant.
Sûrement.
Et là, c'est drôle, parce que là, ce qui me touche quand tu parles de ça, c'est que, j'ai toujours su que les deux relations dans lesquelles je suis là, elles sont centrales pour que je me transforme complètement par rapport à cette question. J'ai toujours su. En fait, le premier mec, c'était la question de non, tu peux prendre les choses, tu vas les prendre pour toi et tu vas reconnaître parce que tu es intelligente et tu sais structurer les trucs et ça vaut le coup. Donc ça a été une forte reconnaissance. Ça a été quelque chose qui m'a permis aussi avec une totale liberté. C'est-à-dire qu'il avait des parts d'ombre ou quoi que ce soit, ça c'est clair, mais j'ai pris vraiment l'information que j'avais à prendre avec cette personne. C'est un peu comme l'océan, quoi, ce mec. Et la personne avec qui je suis là, ben, ça touche ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que le mec avec lequel je suis, il bouge et il a le même type de relation à la jouissance que ma mère. Et ça, c'est un truc qui me... Enfin, effectivement, ça a été le truc plus difficile parce que moi, ça m'a fait partir en crise où je ne voyais plus rien autour de moi, où je perdais tous mes repères et tout. Désolé, c'est un peu difficile de contenir le truc. Hein. Mais du coup, en fait, je me suis battue, mais je te jure, je me suis battue comme une bête, quoi, pour garder mon enracinement dans mon corps, pour traverser, j'ai appelé plusieurs fois SOS suicide, enfin, mais j'ai traversé, quoi. J'ai traversé pour me sentir solide, pour me connecter plus fort à moi. Et en fait, le challenge avec lui, c'est comme c'est quelqu'un qui va, bah, comme un gosse, prendre ce qui lui convient, quand ça lui convient. Et je sais très bien que c'est quelqu'un qui... Enfin, il refuse d'être face à lui-même. Il est dans la jouissance et il refuse d'être dans la structure. D'ailleurs, il le dit lui-même, il est jaloux de mon intelligence. Et je sais que ma mère, c'était plus ou moins pareil. Du moment que j'ai commencé à me différencier, enfin, 7 ans, clac, c'est là que ça a commencé. Ouais. Tu m'aimes pas comme il faut, alors je t'aime plus. Et d'ailleurs, son fils, là, il a 6 ans, il va avoir 7 ans, et il commence à dire peut-être que je vais pas l'aimer pour ce qu'il est, en fait. Et ça fait vraiment un écho assez phénoménal. Et toute la sexualité, sa sexualité, sa manière d'utiliser le pouvoir dans la jouissance, ma mère faisait pareil. Et du coup, je sais qu'il se transforme beaucoup avec ce qui se passe. Enfin, il a un peu arrêter avec ces trucs de manipulation et de mensonges qu'il avait l'habitude d'utiliser avec les autres, que les autres captaient pas du tout. Et c'est ça qui s'est passé quand j'étais petite aussi. Et ça, j'ai vraiment besoin de te dire, parce que si t'as des pistes par rapport à ce que tu vois, ce sera vraiment utile pour moi. C'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, son outil principal, c'était de dire qu'elle sait. Et elle sait parce qu'elle sait donner la jouissance aux autres. Et c'est genre, regarde-toi comme tu sais pas connecter. C'est-à-dire que t'as beau savoir des trucs, ça sert à rien. Les autres, en fait, ils veulent se connecter avec ça. C'est moi qui sais. D'ailleurs, quand j'ai commencé à être un peu plus âgée, je disais, ouais, mais les hommes, ils aiment pas les filles plus jeunes, hein. Les filles plus âgées, elles savent comment faire sexuellement. Et après, elles jouaient tout, avec les émotions. Bah, comme mon mec, c'est genre, ouais, mais tu sais, ça me ferait quelque chose quand même si tu couches avec un garçon ici. Enfin, voilà, ça va me faire un truc, mais bon, j'accepterai, hein. Mais voilà, et dès qu'elle se fait, enfin, il y a un de ces mecs qui a essayé de se planter en voiture avec elle, c'est moi qu'elle a appelé tout de suite. Elle a toujours joué avec le truc de souffrance pour que je porte ce qu'elle est. Mais j'ai beaucoup porté le fait de vouloir la protéger, de vouloir protéger le féminin, mais à travers elle, pas à travers moi, en fait. Et j'ai mis du temps à m'en sortir. Je m'en suis sortie, je crois, que quand j'ai commencé avec les outils, quand j'ai commencé à entendre le ciel, ça j'ai commencé à structurer mes outils, ça a été fort. D'ailleurs, le directeur du centre là avec lequel je travaille pour les personnes qui ont des problèmes psychiatriques, il m'a regardé, et ça a été aussi, je sais pas si c'est un coup de Lilith encore, enfin, mais ça a vraiment fait l'effet d'une épée, quoi. Il m'a regardé, on a discuté, mais pas longtemps, quoi. Alors déjà, il est lié à Daniel Audier, donc encore une fois, le serpent est dans la place, quoi. Et puis, il me regarde, et puis, en plein milieu de la discussion, comme ça, il me regarde, il me fait, oui, si t'avais pas construit tes outils, tu serais resté seul. Et là, ça a fait vraiment l'effet de, wow, parce que ça a fait résonner tout. Ça a fait résonner mes compétences, mes faiblesses, ma peur de l'abandon, émotionnellement, tout, la vision, tout ça. C'est parti, mais en mode nucléaire, quoi. Et en fait, dans la relation dans laquelle je suis maintenant, je suis toujours en train de me dire, mais la personne, là, elle n'est pas capable de faire face à elle-même. Elle est pas, enfin, elle est dans le lien de jouissance de lui à lui. Il aime bien être dans le lien de jouissance par rapport à moi. Il est content parce qu'il sent des logiques structurelles. Donc, il arrive aussi à sortir de son truc de ses souffrances intérieures. Un peu, il arrive à poser certaines bases et à essayer de fonctionner différemment. Mais je suis même pas sûre que ce soit réel. Et moi, je me connecte. Alors, si, je veux dire sexuellement et physiquement, ça construit que je sais me reconnecter et que je sais me remplir de ma vision intérieure, de me voir femme à l'intérieur de moi et de me recevoir dans mon plaisir à l'intérieur. C'est vraiment ma chair, mes muscles, etc. qui se redéposent. C'est comme si je sentais le poids, c'est comme si je sentais le lien entre le centre de ma tête et le centre de mon ventre. Et du moment que j'ai senti ce lien entre les deux, je me suis dit, ah ok, en fait, la question du rêve et du réel, elle n'existe pas. Il y a d'abord une connexion à soi, qui est dans le fait d'avoir un jugement propre, qui est dans le fait d'avoir une capacité à délimiter ses ressources et de les comprendre et d'interagir avec. Et ensuite, on peut aller toucher un peu de questionnement. On peut questionner les perceptions, on peut questionner tout ça. Mais c'est ma mère qui me dit, regarde comme quand tu vas à l'extérieur, personne te comprend. Et comme en réalité, t'es pas capable. Moi, je sais apporter la jouissance et les autres m'écoutent. Toi, pas. Donc ça a fait la coupure au groupe de manière radicale.
Ouais, ouais. Et puis surtout parce que aussi, quelque part, en fait, c'est comme si le comportement, là, en fait, pervers, hein, donc dans le rapport mère-fille, il a induit c'est comme si on était prisonnier du rêve, tu vois. C'est-à-dire
Exactement.
Que comme c'est l'idéal, tu vois, comme l'idéal, si tu veux, il a été mis en amont tout le temps. On a fait croire à un idéal et que la réalité était emplie de souffrance, tu vois. Donc ça devient plus confortable de rester dans l'idéal. Donc de rester dans l'irréel et de rester dans le fantasme. Et en faisant ça, on est kidnappé par cette vision de la mère parfaite ou de la féminité idéale, hein, tu vois. Et donc du coup, quelque chose d'inaccessible, tu vois. Et donc effectivement, la problématique, c'est que si on bascule dans la réalité, on va vivre la frustration. Donc, si on veut sortir de la frustration et du manque et de toutes les émotions qui sont liées à ça en parlant des expériences antérieures, bah, en fait, on doit se réfugier dans le rêve. Tu vois. Donc, sauf que le rêve nous fait rentrer dans des quêtes d'absolu qu'ensuite on aimerait bien vivre dans le réel, qu'on aimerait bien ressentir, tu vois. C'est-à-dire que le rêve, au bout d'un moment, c'est frustrant aussi, hein, tu vois. C'est-à-dire que ça va plus vite, ça va plus loin, on est maître à bord, hein, j'ai envie de dire, on est beaucoup plus maître à bord hein, dans le rêve, mais à un moment donné, hein, c'est pas vécu dans la réalité, quoi. C'est pas vécu dans l'expérience. Hein. Donc, et en même temps, on peut avoir peur, hein, donc, de l'expérience elle-même, ou on peut trouver l'expérience vulgaire, hein, ou, c'est-à-dire, limitante, quoi, en fait. Hein. Donc, ouais. C'est pour ça qu'on peut, on voit la lune noire en maison 7. Effectivement, à un certain endroit, c'est le paradoxe de la lune noire, c'est que, en fait, vivre la relation charnelle à l'autre, ou vivre la relation concrète à l'autre, dans l'établissement du couple, dans l'établissement d'un foyer, dans l'établissement d'une famille, ou dans l'établissement d'un enracinement dans la culture, dans la société, on va dire, réelle, bah, en fait, ça peut être refusé, parce que justement, on trahit l'idéal. Où en fait on sent qu'on s'est coupé de la possibilité d'atteindre l'idéal. Mais rester dans le fantasme, c'est aussi ne pas grandir. Tu vois, c'est aussi s'empêcher de grandir, donc s'empêcher de dépasser, on va dire. Donc là, quand je regarde ça, en fait, avec l'ascendant Capricorne, c'est quand même un besoin donc de retrouver son intégrité, donc de se reconstruire dans son intégrité, effectivement, de faire le deuil de la mère biologique en tant que mère idéale ou en tant que source d'amour. C'est-à-dire de, c'est quelque part en fait, c'est comme si ta mère, en fait, elle a besoin de posséder les autres, donc posséder ses propres créations. Pour remplir, combler son vide, voilà, combler son vide existentiel. Et donc, elle a besoin de posséder les hommes, elle a besoin de posséder les autres, en fait. Voilà, c'est-à-dire, elle cherche à posséder.
C'est comme un vide. Si on parle de la jouissance, si on réfléchit sur le thème de la jouissance réelle, comment on fait, quelle est la réflexion, je parle en tant que miroir, entre le fait d'être en lien avec la source, avec l'amour, et cette nécessité de jouissance, de possession.
Ah ben je pense que c'est parce que je pense que son identité profonde a été volée. Tu vois, donc elle, pour le coup, il est très possible qu'elle ait vécu un abus sexuel traumatique, tu vois, ou qu'elle porte en tout cas la mémoire d'un abus sexuel traumatique, et donc il est possible qu'elle soit en sidération vis-à-vis d'elle-même. Donc elle est comme une actrice, en fait. Elle fait comme si, hein, tu vois, elle était elle-même, mais elle n'a pas la sensation d'elle-même. Tu vois, elle n'a pas la connexion avec elle-même. Donc elle vit un grand vide intérieur, inconscient et non reconnu. Et donc elle cherche constamment à combler ce vide intérieur avec les autres. Pourquoi avec les autres ? Bah, parce qu'elle se venge. C'est les autres qui lui ont volé. C'est l'autre qui lui a volé le cœur de son identité. Tu vois ? Donc elle se venge.
Et qu'est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose si la personne cherche à sortir de la souffrance ? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire quoi que ce soit ?
Ah bah là, en fait, pour le coup, hein, je dis souvent ça dans les lignées, si tu veux, en fait, on aide sa lignée à partir du moment où on restaure à l'intérieur de sa propre vie, c'est-à-dire en lien avec son propre ADN, on restaure les zones ADN occultées ou altérées, hein, tu vois. Et c'est parce que c'est ça qui va faire que ta mère, tout d'un coup, claque dans son ADN, elle va avoir des clés. Tu vois, comme si c'était disponible. Ça veut pas dire que, c'est-à-dire comme si ça disait sur son écran d'ordinateur, c'est disponible au téléchargement. Mais elle a le choix. Elle a pas encore téléchargé le truc. Mais c'est disponible au téléchargement. C'est-à-dire, ah, y a les codes sont arrivés, hein, et une nouvelle version est sortie. C'est disponible. Mais ça veut pas dire que ça va s'installer automatiquement sur son BIOS, quoi. Tu vois, ça va être à elle de faire la démarche. D'installer ça. Mais comment toi tu peux l'aider ? Ben justement, en fait, en faisant, si toi tu fais le deuil de cette mère idéale, en fait, tu permets aussi à ta mère, en fait, de ne plus se voiler la face avec cette image érotique d'elle-même qu'elle a constituée pour ne pas contacter sa souffrance intérieure, tu vois.
Donc, ça c'est super important ce que tu viens de dire.
Ben voilà, ça passe par là, c'est-à-dire que donc c'est pas tant la mère biologique, la mère physique qu'est le problème, c'est toi, l'image de la mère parfaite que tu as construite dans ta psyché. Et c'est d'elle qui te faut faire le deuil, si tu veux. Donc
ouais, mais du coup j'ai l'impression d'être en conflit avec moi-même à cet endroit-là, c'est-à-dire que si je le vois même plus, enfin. On parle de ma mère, mais je suis plus en lien avec elle depuis 4-5 ans et je ne compte plus lui parler. Tu vois, c'est très clair pour moi. J'ai aucun intérêt, j'ai aucun lien, j'ai aucune souffrance. Enfin, c'est comme tu as dit, en fait, ce qui me reste, c'est la projection de la jouissance et d'une forme d'idéal de création émotionnelle. Et le fait, enfin, quand tu dis, voilà, faire le deuil de ça, moi, c'est plus par rapport à mon copain actuel que je me pose la question. Et je sens que la question, enfin, elle est complètement centrale. C'est que quand il vient et qu'il cherche à prendre soin de moi, je sais que c'est une façon d'érotiser sa relation au réel, de se reconnaître comme quelqu'un de, voilà, de valeureux, de sensuel, de tout ça, alors que c'est une totale illusion. Donc, ce que je fais, ce que je passe mon temps à faire, c'est de lui faire sentir que c'est une image qui n'a pas de foi, qui ne me parle pas.
Hein. Alors, attends, là je peux intervenir parce que justement, alors là je vais intervenir parce que justement,
ah bah oui, vas-y.
C'est comme si, là, moi en tout cas, c'est mon point de vue, mais c'est comme si tu refusais à ton compagnon d'être imparfait, ou si tu veux, d'être puérilement humain. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, on a beau être structuré sur des codes géométriques ou des codes mathématiques et finalement avoir une potentialité de perfection, etc., etc. Sur Terre, on n'en reste pas moins que des animaux affectifs pétris d'insécurité. Et donc,
je comprends tout à fait. Tu vois, mais là, c'est pas de ce niveau-là, c'est du niveau de ma mère, quoi. C'est la perversion, vraiment.
Oui, mais est-ce que là, en fait, non, mais justement, est-ce que là, en fait, hein, tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, on sait bien que le rapport sexuel dans le couple, il se déclenche pas en appuyant sur un bouton. C'est-à-dire qu'il y a un truc en amont, et puis il y a un truc en aval, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a, y a un avant, il y a un après. Donc, dans l'avant, bah, en fait, effectivement, hors cadre de séduction et de parade amoureuse, ça va plutôt être une façon de parler, ça va être une façon de se rapprocher physiquement, ça va être aussi effectivement quelque part une libération hormonale qui fait que l'autre va sentir que là, on va dire que le besoin sexuel ou le besoin de rapprochement ou le besoin de sensuel, il est en train de monter, tu vois, le besoin, le désir, etc. Et ça, d'une certaine façon, ça, c'est la logique du couple que de cultiver ces espaces justement où on se regarde, cultiver ces espaces où on se touche, cultiver ces espaces où on explore le fantasme de l'acte sexuel, enfin voilà, c'est-à-dire de cultiver le désir, cultiver le feu de la relation, j'ai envie de dire la passion, l'aspect passionnel ou on va dire amoureux de la relation.
Mais quel est le truc qui est en opposition dans ce que je suis en train de dire?
Mais justement, en fait, ça c'est, ouais. J'ai envie de dire que ça c'est normal, tu vois, ça c'est normal, c'est-à-dire qu'en fait c'est normal, en fait. Mais comment on va percevoir ça? Est-ce qu'on perçoit ça comme une manipulation? C'est-à-dire, tiens, il est
non,
en
non,
train
non,
de...
Non, 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 non,
non, c'est pas ça que tu as voulu dire? Ah ouais, ok.
C'est pas ça, c'est vraiment, non, 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 non. C'est par exemple, il est plein de haine, et vraiment. Genre, il est juste en train de... Tu dis un mot de plus et il va partir en truc de manipulation où il va finir par être vraiment dégueulasse, et vraiment. Genre à dire, mais en fait, j'en ai rien à foutre de toi. Mais en fait, enfin, tu vois, vraiment, ça va être...
Ouais, il va être méchant, quoi. Voilà, c'est ça. Il va être méchant, quoi.
Mais non, mais oui, mais sans émotion. C'est vraiment la partie qui n'est pas connectée de lui-même. C'est vraiment le truc du vide.
Ça, c'est le noyau psychotique. Ouais, ça, c'est le noyau psychotique. Là c'est voilà. Typiquement un enfant de 4-5 ans. Si tu n'obéis pas à ce que je veux de toi, t'es rien. Je te nie, quoi. Ah, t'es plus rien, quoi.
Bah, c'est ça qu'il fait.
Ok. Ok.
Et en fait, après, il va me dire, ben voilà, par exemple, je sais pas si. Par exemple du cannabis ou quoi, il va me dire ah bah voilà je veux qu'est-ce que t'aurais pas envie de fumer, et je viens bah ouais peut-être, ah oui mais j'en ai plus, ah mais tu pouvais me dire que t'en avais pas, enfin tu vois c'est des trucs, et ça part toujours en vrille. toujours derrière, ou bien le truc typique, ah ça. Ok, le truc c'est, on peut pas sortir. Pourquoi? Parce que il ne contient pas ses visions. Donc en fait, il utilise sa vision, donc il crée des films dans sa tête pour arriver à des absolus de pouvoir, donc à se reconnaître comme le tout-puissant qu'il aimerait être et qu'il n'est pas. Dans les relations, dans la parole, dans tout ça. Donc il se refait des films. Et il a un fantasme par rapport au féminin qui est justement tout à fait irrespectueux par rapport au féminin. Genre ça doit correspondre à un truc de violence et de pouvoir. Et quand je suis à côté, quand on sort, il prend plaisir à rentrer dans des films dans sa tête à côté de moi avec le truc derrière énergétique de me montrer que je ne suis pas ça ou qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est très clair énergétiquement et c'est très fort. Et moi, en fait, je réagis de manière froide et claire. C'est-à-dire que je lui dis non, ça ne me convient pas. Je tourne les talons et je rentre chez moi. Et en fait, du coup, en fait, il fait passer ça comme je suis victime de mes visions, j'arrive pas à poser des limites, etc., etc. C'est sans doute vrai en partie. Mais ce truc par rapport à l'idéal féminin, le truc de la jouissance et ce qu'il fait par rapport à ça, la sexualité, par rapport à ce qu'il donne en vrai, et ce qu'il... tu vois, la division entre le lien qu'on a au niveau de la connexion émotionnelle, etc., etc., de ce qui nourrit ou pas, et puis ce qu'il fait par rapport au pouvoir et par rapport à la sexualité, au féminin. Du coup, clairement, ça m'a renvoyé dans des structures où je me dis, tiens, en fait, être prostituée, c'est bien. Enfin, tu vois, les vieux schémas de, dans ce cas-là, la liberté absolue qui part en vrille. Et voilà. Donc ça, c'est pas évident. Et en fait, la question maintenant, c'est qu'est-ce que je fais? Parce que je sais qu'il fonctionne comme ça, dans l'idée de toute puissance, il se comporte comme un gamin. Clairement, il y a l'idée du vide absolu. Il y a une fois, enfin parfois, parce qu'on a pas mal bossé ensemble, les quelques fois où il était connecté à lui-même, il m'a dit, là, je commence à me voir un peu trop, ça me va pas. Donc, on arrête. Mais disons qu'on peut se connecter à travers l'inconscient. On peut se connecter, et là, il accepte complètement de ressentir, de recevoir limite des informations. Il reçoit l'influx. Et puis, quand il revient avec son ego, là, c'est la destruction. C'est de la violence, c'est de la manipulation, c'est de la connerie, et c'est trash. Et donc, là où je me trouve maintenant, c'est qu'est-ce que je fais avec ça, quoi.
Alors, en fait,
ça se résout dans le travail.
J'ai envie de te dire que la relation dont tu parles, de ton point de vue, revient à tenter de sauver la mère. Pour moi.
Ouais.
Voilà, pour moi, c'est tu essayes à travers donc ton compagnon là de sauver ta mère. Donc c'est un peu normal avec ta lune noire en maison 7, tu vas être attiré de toute manière par des gens qui sont très lune noire. Donc ouais. Et qui en plus ont structuré ça dans leur lien avec la mère, notamment les hommes. Voilà, bon, ils ont structuré ce truc très lune noire avec la mère. Là, ils ont embarqué la mère là-dedans. Donc forcément, en fait, si tu veux, il y a un double réflexe, hein, si tu veux. C'est est-ce que on va considérer la mère idéale et indétrônable? Donc inaccessible, et qu'on va interpréter cette inaccessibilité en se disant qu'on n'a pas été comme il faut, ou alors est-ce que on va se considérer comme un être divin et considérer que si la mère nous a pas aimé comme un dieu, c'est que c'est une grosse salope, tu vois. Et donc du coup voilà, et donc je pense que lui, hein, il est dans les deux, tu vois, il est dans les deux, il passe de l'un à l'autre. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'il a besoin de se venger de cette mère qui ne l'a pas aimé comme un dieu. Et en même temps, en fait, pour cette mère qui aurait dû l'aimer comme un dieu, pour l'aimer comme un dieu, elle aurait dû être une mère déesse, une déesse mère. Donc du coup, il a une projection inconsciente, pareil. C'est-à-dire là, vous raisonnez ensemble. C'est-à-dire qu'il a une recherche du féminin idéal. Sauf que comme il ne le trouve pas et que ça ne peut pas venir de lui, tu vois, bah en fait, la femme, c'est rien, quoi. Donc il cherche à tuer son idéal de la femme parce que ça fait une obsession, c'est une obsession chez lui, en fait. Et donc ça le rend malheureux, on va dire, quoi. Il n'arrive pas à atteindre ça, quoi. Tu vois. Donc forcément, lui, inconsciemment, il a attiré une femme qui justement en fait ne peut pas réaliser son idéal d'être totalement possédé, hein, d'être pas totalement asservi, quoi, tu vois. Et pourtant il en a le fantasme.
J'accepterais pas d'être asservi.
Tu dis quoi?
Que moi j'accepterais pas d'être asservi, c'est ça?
Mais pas dans son pas autant que lui, hein, au niveau de sa structure psychotique il le cherche. Tu vois, parce qu'il pourrait aller loin, en fait. Tu vois, lui, il aurait besoin d'être accompagné, pareil, pour tuer la mère. Tu vois, pour tuer son idéal de la mère, qui l'empoisonne. Tu vois, parce qu'à un certain endroit, en fait, il en fait une obsession.
Là, c'est moi qui doit tuer, du coup? Ou c'est moi qui dois l'aider à tuer ça?
Ah bah non, là moi je pense qu'en fait il faut comprendre que quand ça la névrose, on peut aider, hein, c'est-à-dire la dimension de la névrose, on peut aider, hein, c'est-à-dire qu'on peut aider un névrosé parce qu'il le demande, on peut l'aider aussi parce qu'il est souple. Les endroits psychosés, on peut pas aider l'autre, hein, tu vois, il y a que l'autre qui va pouvoir s'aider lui-même, ou alors il accepte d'être aidé dans un cadre beaucoup plus engageant, de l'initiation ou de la psychothérapie ou même du travail psychiatrique, peut-être grâce à des substances, etc., pour aller voir de l'autre côté. Mais non, tant que lui ne fait pas le choix de la transformation, si tu veux, sa problématique à lui, c'est que dans son fantasme, c'est lui qui est tout puissant. Donc du coup, il a aucun intérêt à sortir de ça. En fait, hein, voilà, parce que derrière cette toute puissance se cache en fait une grosse impuissance, tu vois.
Donc, et c'est trop... quoi l'impuissance? C'est le manque de la mère?
Ben, je pense que, j'ai pas regardé son thème, hein, pour le coup, hein, mais ouais. Je pense que il doit bien avoir un complexe mère aussi, lui, quelque part, quoi, en fait. Hein,
bah, c'est avec son père, en fait, c'est l'abandon du père. Tous les mecs que je connais, c'est l'abandon du père, ou la violence du père, ou le père qui s'est suicidé, ou le père qui a essayé de tuer le petit garçon, ou... concrètement, je veux dire.
Ah voilà, donc du coup, lui, voilà, c'est ça. Donc, il est bien là-dedans. La mère n'est donc pas à la hauteur de mon père tout-puissant, de mon père divin. Et c'est à cause de ma mère que mon père est parti. Et donc, donc quelque part, en fait, voilà. Et après, il y a eu sûrement un inceste à la mère, enfin, etc. Et donc...
complètement. Donc, mère est incestueuse.
Voilà, mère incestueuse. Et donc, du coup, effectivement, voilà, c'est à cet endroit-là. Donc, comme le père est divin... lui, en tant qu'homme, il est divin, et c'est bien une image de toute puissance de lui-même, hein, qui cache en fait une grosse tristesse, qui cache une blessure de séparation, hein, et qui fait qu'en fait, tout d'un coup, il va pouvoir haïr la mère. Elle n'a pas été à la hauteur de mon père, de Dieu mon père. Et donc, lui, en fait, il est là-dedans, tu vois. Il est là-dedans. Ouais. Mais comprends bien qu'en fait, il ne fait que prendre le relais de ta mère, hein, qui avait pour message principal, tu n'es pas à la hauteur de l'image idéalisée que je projette sur toi.
Ouais, je sais bien.
Voilà.
Et après,
je
me reconnecte à moi, c'est-à-dire que je traverse un peu le feu, quoi.
Et ton ami, il fait pareil. Il dit, tu n'es pas à la hauteur de la projection idéale que j'ai de toi. Ou de la femme, en fait.
Ouais, il le dit pas clairement, mais il le dit, ouais.
Ouais.
Enfin, je le sens.
Ouais. Et donc toi, c'est pour ça que je dis, en fait, c'est le prolongement de ta relation avec la mère. Donc, quelque part, en fait, si... c'est un entraînement, on va dire. Pour toi, c'est un entraînement à rester debout, hein, malgré, hein, finalement, le fait que le contexte maternel, hein, il s'est remis en place dans la relation de couple. Et voilà. Mais c'est aussi peut-être parce que toi, inconsciemment, tu cherches à sauver la mère, ou tu cherches à plaire à la mère, ou tu cherches enfin à accéder à cette mère idéale ou à cette femme idéale, que finalement cette relation te challenge ou te motive, tu vois. Parce que finalement, lui, il attend de toi que tu comment on va dire ça, que tu enrichisses, enfin là, que tu deviennes cette femme toute puissante ou cette femme, éclatante, enfin idéalisée, quoi.
Ouais. Après, le truc, c'est que ben, tout le temps, il veut un enfant, il perturbe super fort. Dans la question de la lune noire et de la maternité, etc., enfin, c'est particulier.
Ben, en fait, si tu veux, dans toute forme de blessure narcissique, l'enfant est un agent de compensation, en fait. Hein, parce que l'enfant, c'est celui qui va être à l'image du père. Hein, tu vois. Donc, du coup, l'enfant, est-ce qu'on attend l'enfant pour... est-ce qu'on veut un enfant pour devenir père ou pour vivre une expérience de avec un autre être que nous, tu vois, ou alors est-ce qu'on veut un enfant pour compléter un vide intérieur, tu vois, c'est pas la même.
Ouais.
Tu vois. Et là j'ai envie de dire que c'est comme si en fait je veux un enfant de toi et je ferai de cet enfant puisqu'il sera aussi, il sera toi plus moi, il sera donc mieux que toi, tu vois. Là, je me demande si c'est pas le positionnement de ton compagnon, quoi, tu vois. Toi, tu n'es pas assez bien, mais si on fait un enfant ensemble, vu que il y aura moi en plus et que moi je suis parfait, alors il sera mieux que toi. Et donc,
tu vois. Il croit pas en sa perfection. Enfin, dans quelle mesure il s'y croit en sa perfection, c'est quand même.
Dans son inconscient d'enfant. Dans son inconscient d'enfant. Oui. C'est parce qu'en fait, si tu veux, c'est dans son identification au père qu'il a construit ça. Donc on est plus sur un narcissisme secondaire, on est dans la relation au père. C'est pour ça que je dis que là on est plus dans l'espace psychotique, on va dire, on est plus dans une représentation. C'est pour ça qu'on est plus dans l'irréel, dans le mental, dans le fantasme en fait. Hein, en fait, c'est la quête de toute puissance de l'enfant entre 4 et 5 ans. Et cette identification du petit garçon au père tout puissant, au dieu tout puissant. Donc après, il faut voir quand est-ce que la séparation a eu lieu, mais en tout cas, il y a quelque chose là-dedans. C'est-à-dire que le fait d'avoir un père absent, d'avoir un père qui est parti, ça permet de l'idéaliser, hein, en fait. Hein, voilà, ça permet de l'idéaliser. Le fait qu'il se soit séparé de la mère et qu'on l'a idéalisé montre que c'est lui qui a raison. Il est parti parce que sa mère ou sa femme, pour lui, là, le père, sa femme n'était pas à la hauteur. Hein, donc, de cette perfection qu'il a lui. Donc, à partir de ce moment-là, comment il a fait pour survivre le fils ? Ben, en fait, il s'est identifié, pour ne pas sentir la culpabilité liée à la séparation, il va s'identifier à la toute-puissance du père, et donc, il prend le parti du père pour juger la mère. Tu vois ? Et donc, sauf qu'en jugeant la mère, hein, il juge aussi toutes les parties de lui qui ont besoin d'amour, et donc, il se coupe de plein de choses. En termes de sécurité intérieure, en termes de connexion au corps, en termes de connexion au réel, tu vois, à ses besoins, etc., etc. Et donc, quelque part, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus psychotique, dans le sens où il est coupé, il est dissocié à un certain endroit de son propre corps.
Ouais, complètement. Mais du coup, quoi, je dois le trahir,
Bah, en fait, c'est-à-dire pour toi, le challenge, je pense, c'est de ne plus chercher à ressembler ni à la mère, la mauvaise mère, tu vois, c'est-à-dire ne surtout pas jouer la mauvaise mère, hein, tu vois, effectivement, et en même temps, ne pas non plus chercher à être la femme idéale, tu vois, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Et le risque, là, c'est aussi un test pour toi relationnel, c'est le risque, c'est que la relation ne devienne plus intéressante pour lui. C'est-à-dire que si jamais toi tu arrêtes de jouer dans son système psychotique, soit la mauvaise mère, soit l'idéal ou la promesse de la femme idéale, bah en fait, ça se trouve, ça va plus l'intéresser. Tu vois ?
Ouais.
Parce que ça va être pour lui, ça va être trop classique, j'ai envie de dire. Alors que, justement, c'est toi, l'idée, c'est que, justement, toi, t'es venu vivre vivre une expérience réelle, c'est-à-dire quelque chose qui soit pas fantasmé, quelque chose qui soit pas complètement pris dans l'émotion, quelque chose qui soit pas totalement pris dans l'excitation, quelque chose qui soit pas complètement embarqué dans une manipulation, quelque chose de caché ou quelque chose qui finalement est vicieux, on peut dire, tu vois, c'est pour rentrer dans quelque chose de réel, quelque chose d'intègre, quelque chose où on est vraiment disponible au présent, tu vois, au présent. Voilà, toi, c'est ça ton trésor, c'est le présent, en fait, tu vois. Donc, par exemple, toi, en fait, en termes de, j'ai envie de dire, en termes de jouissance ou en termes de, il mieux vaudrait, hein, si tu veux, une relation vécue sous la forme d'un désir, tu sais, un désir instantané, là, tu sais, le truc où tu sais, le moment où pendant 5 minutes, 2 personnes se désirent et puis, en fait, 10 minutes après, c'est fini, hein, tu vois. Bah, toi, vaut mieux que tu te laisses vivre l'instant présent au moment où le désir est là, plutôt que finalement te dire « Ah, lui, il me plaît, ah ouais, et puis, tu sais, rentrer dans quelque chose où on va préparer finalement
là. » Ça m'est jamais arrivé, quoi. Enfin, le désir, en fait, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que dès que je rencontre un homme, tout de suite l'homme, enfin, s'il n'a pas quelque chose au niveau psychique, au niveau vision, au niveau perception qui est fort, il va tout de suite tomber, mais genre, hyper, hyper amoureux, accroché, etc. Et ça, je sais que c'est mon énergie. Même si j'ai fait un gros travail pour vraiment ne plus du tout utiliser ce médium de communication, de réfléchir ou de vouloir quoi que ce soit à partir de ça ou de penser à quoi que ce soit, ça continue de communiquer d'une certaine manière. Et c'est pas tant un problème parce que, comme justement, je nie le côté idéal dans l'interaction avec les gens sur le moment. Je me mets là, avec ce qui se passe, avec ce que j'ai construit, mais ça parle plus du côté travail pour moi. C'est la clarté, enfin la bienveillance ou le côté neutre où je suis disponible à ce qui se passe, ça prend plus de place pour moi. Et je veux que ça prenne plus de place que l'attraction que je peux avoir sur les gens, en fait. Et du coup, ben non, le désir qui est là à la seconde, ça me convient pas. Les liens que j'ai tissés qui sont de fond, c'est des liens d'esprit plus que quoi que ce soit. Et c'est des personnes qui, même si je suis plus avec, ça reste des frères, ça reste des liens, mais hyper solides, c'est comme de la roche, quoi. Et là, je sais pas comment ce serait avec cette personne avec qui je suis maintenant, mais je pense que c'est pareil, structurellement, enfin. Il m'a dit, j'ai passé toute ma vie à souffrir, et là, j'apprends à fonctionner complètement différemment, quoi. Personne avant m'a dit que je mentais ou que je faisais des trucs pas clairs. Et je le sens. Maintenant, c'est un peu la question. C'est effectivement, je joue pas le jeu d'un côté, je joue pas le jeu de l'autre. J'apprends à me tenir au milieu et à m'aimer, à me nourrir. Mais après, c'est sur la durée, quoi. Il va jouer de plus en plus à certains trucs. Quand il se sent déconnecté de son corps, enfin, quand il va avoir une souffrance physique ou une souffrance émotionnelle, il va partir dans ce qui lui convient. Il va partir dans son idéal. Et il va se déconnecter, ça va repartir en manipulation, en violence, etc., quoi. Donc, moi, c'est à un moment donné. Mais le challenge derrière, parce que la relation, c'est un énorme challenge, mais le challenge derrière, c'est d'arriver à me structurer professionnellement avec ça. Parce qu'il y a plusieurs plans. Les plantes sont super importantes, la communication, le code de langage de la matière ou du réel, c'est un truc que j'ai pas à le chercher. J'ai tout le temps des choses qui me viennent par rapport à ça, donc voilà. Et puis de l'autre côté, il y a cette dynamique émotionnelle, mais pareil, je prends pas pour me nourrir, pas pour me remplir. Je me remplis d'abord et après je vois ce que je peux en faire, mais professionnellement, effectivement, je peux travailler avec des personnes atypiques, je peux accompagner tout ça, mais comment je me positionne par rapport à mes compétences, pas tout à fait clair, en fait. Parce que, alors là, je vais te poser une question, et là, je vais poser la question à la personne qui a des connaissances, vraiment. C'est, moi, à partir de ce que j'ai appris ou de ce que je comprends, bah, justement, les personnes, elles ont toutes des structures complètement différentes. Et comment je fais pour savoir, même si je comprends la structure, parce que en général les gens comprennent pas, enfin savent pas décoder les structures, comprennent pas vraiment comment c'est construit. Et c'est, enfin, après, je dis bien que je ne sais pas tout, hein, je dis pas que je sais tout, mais je conscientise qu'il y a des structures différentes, je les reconnais et je parle avec ces structures. De la même manière qu'avec les plantes ou avec... Enfin, je ne peux pas expliquer, en fait. C'est une question sur un autre plan. Et après, les besoins de la personne dans le vécu. Comment est-ce qu'elle se... Elle se un peu comme tu mets un poisson dans l'océan, bah comment tu nages, quoi. Comment est-ce que tu bouges avec ça et qu'est-ce que tu veux en faire. Et souvent, les gens n'arrivent pas très bien à déterminer ce qu'ils veulent de ça. Ils ne se comprennent pas nécessairement eux-mêmes. Et puis voilà, et moi je suis un peu genre, ouais, mais j'arrive avec ça, ok, je sais des trucs, mais comment je fais pour justement, avec la dimension de Saturne, comment je fais pour structurer? Du coup, je suis vraiment, enfin, pour structurer de manière plus claire avec moi-même. Comment est-ce que je fais? L'instant du moment, c'est bien, mais voilà, je me dis, il faut quand même que je pose des pensées, des actes, des trucs, et j'ai envie de. D'avoir ça plus solidement entre mes bras. J'ai vraiment 6 projets en même temps là qui sont super, mais je sens qu'il faut que je me reconnaisse plus ou que je me solidifie plus dans ce que je fais par rapport à ça. Et la question du rêve et la question de la structure, c'est les deux pans de mon thème aussi, c'est clair. Donc comment je fais pour les rassembler? Est-ce qu'il y a un truc que je dois faire par rapport à ça? Après, le réel continue tout le temps de m'alimenter en informations. Donc même si je cherche pas ou même si je comprends pas trop, le réel continue de me donner de l'information. Genre des bouquins qui décrivent les problèmes psychiatriques, comment ça s'est construit dans les cellules et tout, qu'est-ce qui réagit avec quoi. Ça c'est super intéressant parce que du coup je fais lien à nouveau avec les plantes et aussi avec la structure, bah, comment la personne bouge avec ses muscles, quelles sont les parties qui vivent ou pas, comment est-ce que... Elle se relie à son système, quoi. Comment son immunité fonctionne aussi. Et je sens que j'ai énormément envie de structurer des choses solidement, en fait, à partir de ce que je sens, ce que je pressens ou ce que je sais d'une certaine manière. Donc, je me dis quelle voie je prends par rapport à ça, parce que le Saturne chez moi, enfin l'envie de la sécurité par rapport à ce que je sais, elle est vraiment hyper forte, quoi.
Bah, pour moi, pour ne pas se perdre dans l'intellect et pour ne pas non plus se perdre dans l'intensité du réel, en fait, hein, et notamment quand il y a des structures psychotiques, ça va amplifier, si tu veux, les paradoxes, hein, donc ça va forcément générer des émotions beaucoup plus fortes, tu vois. Donc, donc pour ne pas se faire engloutir aussi, hein, tu vois, parce qu'il y a des structures comme le pervers narcissique qui sont extrêmement difficiles à sonder, en fait, hein, puisqu'apparemment tout est joli, tout est beau, hein, c'est beaucoup plus difficile que le psychopathe, le psychorigide, où finalement ceux-là on les voit venir, tu vois, et ceux-là en fait on voit quand il y a un manque de mobilité chez le psychorigide, en fait, voilà, quand il y a vraiment un manque de fluidité, de souplesse. Bon, on le voit, tu vois, le psychopathe, celui qui cherche à détruire, celui qui cherche à faire mal et qui se cache pas parce qu'en fait il est gourmand de ça et qu'il a aucune limite, il se met pas de limite, etc. Bon, bah ça c'est assez facile. Après, les structures plus schizoïdes, le schizophrène, la structure perverse narcissique, toute la blessure narcissique, tout ce qui finalement est caché, soit parce qu'il y a une Mr. Jekyll, tu vois, et Dr Hyde, tu vois, il y a vraiment un truc caché chez l'autre, donc c'est la schizophrénie, il y a un truc qui apparaît de temps en temps comme ça et on sait pas trop si c'est le super-héros qui va apparaître ou c'est le taré qui va apparaître, on sait pas trop, ou le perdu, le suicidaire ou je ne sais quoi, ou alors le pervers narcissique où il y a toujours un jeu de séduction parce qu'il y a toujours la tentative de compenser son manque narcissique, hein, voilà, sa blessure narcissique par l'amour de l'autre. Bon, voilà, donc c'est des structures. Mais ici, moi, ce que je dirais, en fait, c'est que une des meilleures approches que je connaisse, moi, en fait, qui permet de lier les deux, c'est-à-dire vraiment la...
Professionnellement, hein.
Professionnellement, pour moi, c'est tout le travail de Wilhelm Reich, et donc tout le travail de la psychologie biodynamique, tout le travail de Garda Boyson du côté de la somatothérapie, de la végétothérapie, c'est-à-dire que Wilhelm Reich, si tu veux, lui, bah, il a considéré qu'il y avait ce qu'il appelait des cuirasses caractérielles, mais il a considéré que la névrose, ou la psychose, qui est un état avancé de névrose, on va dire, ou qui est un état encore plus dualiste, encore plus séparé à l'intérieur Mais que tout ça s'est constitué sur la base de cuirasses musculaires, donc de cuirasses organiques qui sont dans les diaphragmes, qui sont vraiment dans nos tissus, quoi, qui sont vraiment dans notre corps en fait. Voilà, que c'est le corps qui porte la névrose et que la névrose n'est pas dans la tête en fait. Et lui, il est sorti de la dimension assez intellectuelle du freudisme ou du lacanisme ou de tout ça. Il est sorti de ça en disant mais en fait non, l'inconscient c'est le corps, la névrose est dans le corps et donc on doit intégrer le corps pour obtenir une guérison. Donc on guérit pas dans sa tête en fait, et si on réussit à guérir dans sa tête, c'est parce que le corps a suivi en fait. C'est qu'à un moment donné la véritable guérison est une guérison du corps. Voilà. Donc lui il s'est dit, mais plutôt que de traiter avec la tête, sachant qu'au 19e siècle, au début du 20e, si la tête était prise dans des enfermements culturels, des conditionnements intellectuels qui étaient énormes. Donc il fallait passer par le rêve, il fallait passer par plein de choses pour déjouer, on va dire, les jeux du mental ou les jeux de la limitation culturelle ou même religieuse, etc. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a les plantes, aujourd'hui on a des moyens, on va dire, de faire émerger, de faire s'exprimer l'inconscient, mais n'empêche que ça restera quand même le corps qui est à la base de la reconstruction, et c'est le corps qui est l'interface entre le jeu qui du coup vit une fragmentation, et la source. La source, l'énergie d'amour, l'énergie sexuelle, parce que Reich, il a pas parlé des... Ici, il a parlé de l'énergie d'amour, mais il a surtout parlé de l'énergie sexuelle.
Non, l'énergie sexuelle, ouais.
Voilà. Mais finalement...
C'est drôle quand même, parce que l'univers, il fait que... Enfin, il y a quand même des blagues assez costauds, quoi. Un des premiers types dont Marvin, mon compagnon actuel, m'a parlé, c'est William Reich.
Oui.
Tu vois ?
Et oui. Et oui, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Si tu veux, quand je regarde ton Capricorne et Neptune, tu vois, donc Neptune en Capricorne, ascendant Capricorne, quand je vois ton Jupiter qui est en maison 2, vraiment la dimension du corps, en poisson, donc c'est vraiment la dimension libidinale du corps. Ton Jupiter, il est en poisson.
Non, le poisson. Non, le Mars, il est en poisson dans le taureau.
Alors toi, tu dis dans le taureau, oui, c'est la maison 2. Mais comment dirais-je, oui, nous, on va dire plutôt la maison 2. Donc, c'est la maison symboliquement reliée au taureau, mais quand même, c'est quand même pas le taureau, la maison 2. Mais oui, c'est quand même, mais voilà, c'est la dimension du corps, c'est la dimension de la matière. Donc, moi, en fait, si professionnellement, tu vois, j'ai envie de te dire que pour moi, c'est plutôt dans le domaine du toucher, dans le domaine de la vibration, du toucher, si tu veux, énergétique. Voilà, c'est un toucher qui est, c'est pas un toucher mécanique, si tu veux, c'est un toucher sensible, c'est un toucher qui écoute, et c'est un toucher qui réinforme, c'est un toucher qui nourrit. Donc, c'est le toucher qui écoute, c'est le toucher qui nourrit, c'est le toucher qui active, c'est le toucher qui libère, c'est le toucher qui guérit. Donc, et pour moi, tout ça, c'est toute la dimension du travail de Reich, tu vois. Et puis après, de la végétothérapie.
Mais t'es en train de décrire ce que Marvin fait. Marvin est ostéopathe. Et la raison pour laquelle je me relie à mon corps, c'est justement parce qu'il me réinforme. La première fois qu'il a touché mon cœur, ça a juste fait genre une explosion où j'ai recommencé à me voir l'intérieur, quoi.
Oui, mais je pense qu'il y a réellement un travail à faire, de toute manière. Je pense qu'il y a un travail à faire, c'est-à-dire que quelque part, on pourrait dire que toi, dans la relation, tu es venu tuer cette espèce d'image idéalisée de la mère pour te libérer, c'est la véritable émancipation, tu vois. C'est-à-dire que tu as le droit d'exister en tant que toi. Et ce toi manifeste dans un corps humain, il sera de toute manière imparfait. Il sera en tâtonnement, il sera séparé, oui. C'est-à-dire, sur Terre, on vit très réellement une séparation d'avec l'absolu, d'avec l'idéal, d'avec nous-mêmes, même d'avec notre univers. Voilà, c'est réel. Donc ça, c'est pour toi, c'est nécessaire pour que tu puisses t'autoriser à te satisfaire, c'est-à-dire à jouir de toi en tant que toi. Et plus conditionné par l'idée d'être à la hauteur de cet idéal qui en fait te stresse et fait que de temps en temps t'as juste envie de te flinguer parce que tu sais que t'y arriveras pas. Et c'est la problématique, c'est le sentiment d'impuissance vis-à-vis de cette inaccessibilité. Et donc, mais quelque part, c'est comme si tu t'interdisais, tant qu'il y a cette image idéale, donc inconsciente, tu t'interdis de jouir. Tu n'as pas le droit. Tu n'en es pas digne. Tu vois. Et donc, ça pose un problème, parce que c'est de la sécurité, c'est de l'intégration de compétences et de la validation de compétences au niveau professionnel, c'est de la sécurité et aussi du comment dirais-je, de la, le fait de se sentir bien dans la relation à l'autre, tu vois. Parce que s'il y a toujours quelqu'un qui te sort inconsciemment, mais t'es nul, mais t'aurais carrément pu faire mieux, mais ceci, mais cela, au bout d'un moment, c'est infernal, si tu veux, tu vois. Et donc toi, c'est, je pense, ton challenge pour que tu puisses laisser naître la femme réelle. La femme réelle. Et en fait, j'ai envie de dire que tu t'habitues à dire « je ne suis que moi » et c'est tant mieux, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, voilà, c'est que le fait de n'être que toi, eh bien, tu sentes que ça te sécurise.
C'est j'entends, mais c'est une phrase que j'entends, mais en même temps c'est une phrase extrêmement ambiguë, parce que si j'avais pas, par exemple, si j'avais pas reconnecté avec le cœur de la manière dont il me remet en contact, parce que justement je me suis refusée à ce truc de mère et que du coup cette partie de mon émotionnel et de mon corps je l'ai coupée, je me serais, enfin voilà, moi avant lui, c'est comme si d'une certaine manière j'existais pas. Et c'est pas tant le fait qu'il me reconnecte à la mère, c'est le fait que la partie que j'ai coupée de moi, du coup, elle est rematérialisée, en fait. En tout cas, elle a à nouveau une porte pour pouvoir se redensifier. Et c'est un peu le truc particulier aussi, c'est qu'il est ostéopathe. Et moi, ça fait des années que je me dis, je fais les études d'ostéopathe ou pas?
Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Avec l'ascendant Capricorne, oui. Avec l'ascendant Capricorne, c'est sûr. C'est sûr que le crânio sacré, l'ostéopathie, tout ça,
voilà.
Je parle de la somatothérapie, tu vois, donc du coup, ben oui, mais tout ça c'est lié. C'est vrai que l'ascendant Capricorne donne la connexion particulière avec l'os, quoi, avec la structure, avec le structurel, tu vois.
Bah
mais,
ouais.
Mais ici on est plus dans la, comment dirais-je, alors ça pourrait, hein, pourquoi pas, ça pourrait, hein, du crânio sacré ou de l'ostéopathie, ça pourrait. Maintenant c'est des études longues, hein, donc c'est aussi des études hyper implicantes, engageantes, c'est plus comme il y a 10 ans non plus. Tu vois, faut faire sa place et tout, il y a du monde sur le coup. Bon, voilà, mais effectivement, oui, c'est tout à fait envisageable. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu dois associer, si tu veux, donc les connaissances intellectuelles ou les connaissances structurelles, effectivement, te référer à des choses connues pour poser un cadre dans lequel tu vas faire une expérience finalement indescriptible, qui est une expérience magique, qui est l'expérience peut-être du toucher, qui est l'expérience de l'intuition, qui est l'expérience du ressenti, qui est l'expérience de l'empathie, de avec des visions, avec l'imagination qui va servir énormément de substrat pour avoir de l'information, enfin d'entendre, de sentir, de voir, enfin tu vois. Mais il te faut un cadre pour ça.
Ça me terrifie, parce que ce que tu es en train d'écrire, c'est vraiment ce qu'il est, quoi. C'est vraiment ce qu'il est. Alors peut-être, ouais, clairement, ça me révèle à moi ce que je veux.
Mais oui, ça veut dire que tu viens finalement quelque part. C'est ça la relation, en fait. C'est on est attiré par l'autre, on est attiré par des parties de nous-mêmes qui se projettent sur l'écran de l'autre. Donc à un moment donné, à partir du moment où on accepte de voir ça, de réintégrer ces parties-là, bah en fait, soit la relation change de niveau. Tu vois, soit la relation n'a plus besoin d'être, tu vois, c'est en fait parce qu'on a tout simplement parce que c'est fait, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça la relation, en fait. C'est pour ça il faut comprendre que derrière tout ça, parce que même derrière l'abandon se cache en fait la peur de la séparation, ça veut dire la blessure de séparation. Or effectivement, on est venu se réunifier, se reconnecter à nous-mêmes. Et en fait, par contre, on n'est pas forcément venu pour s'attacher à l'autre. Ça ne veut rien dire, s'attacher à l'autre. Et même si on s'attachait profondément à l'autre, la mort nous séparera. C'est contrairement à nous-mêmes, tu vois. Nous, on sera juste séparés de notre corps. Mais la réalité, c'est qu'on sera séparés de l'autre, parce que l'autre, il n'existera plus jamais. Et donc, nous-mêmes, dans ce corps, on n'existera plus non plus, mais on récupérera quelque chose de plus grand. Donc,
mais ce que tu dis, William Reich, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'expérimenter ou qui... De lire les bouquins, ça suffit?
Parler
d'autres bouquins aussi.
Il y a des thérapeutes, psychocorporels, on les appelle les thérapeutes psychocorporels. En fait, par exemple, en France, on a la psychologie biodynamique qui se réfère à ce courant de Reich. Et donc, ils font des stages à Paris, ils font des stages à Lyon, ils font des stages à Montpellier. C'est des stages, justement, où on apprend... Moi, j'en ai fait quelques-uns, tu vois, on va apprendre à contacter, c'est-à-dire à sentir que c'est le corps qui fait le travail. Et donc, c'est le corps qu'on a besoin d'accompagner, hein, tu vois. Le corps, il n'a pas été nourri, donc il y a des espaces en nous qui crèvent la dalle. Alors, comment on va faire pour les atteindre et comment on va faire pour que ces espaces acceptent d'être nourris? Donc, c'est tout un processus, on va dire. Ouais. Tu vois, par exemple, dans la relation thérapeutique en psychologie biodynamique, une séance, ça peut être la personne, elle va venir chercher la fonction maternante du thérapeute. Donc, elle va venir se blottir, si tu veux, dans les bras rassurants du thérapeute. Et la séance, ça peut être une heure de reparentage, comme ça. Tu vois, ça peut être juste ça. Tu vois, juste ça. Et puis la personne, elle s'endort dans les bras du thérapeute ou elle sanglote dans les bras du thérapeute. Elle cherche la caresse du thérapeute, etc. Il y a un plein transfert, tu vois. C'est ça, la psychologie biodynamique. Il y a un plein transfert. Le thérapeute peut très bien jouer de temps en temps le père, de temps en temps la mère. Tu vois, je veux dire, voilà. Et le jouer physiquement. Tu vois, c'est pas autour d'un bureau, quoi. Tu vois, c'est vraiment, ça va être dans le contact, tu vois. Après, ça peut être, ils utilisent aussi des stéthoscopes pour écouter le péristaltisme, pour écouter tout le système parasympathique et tout le système végétatif et comment les intestins, c'est-à-dire le cerveau émotionnel, se remet en place, hein, tu vois. C'est-à-dire comment on va digérer, hein, justement, les émotions du passé, ouais. Et comment on va, à l'endroit où il y a une espèce de dévastation passée, hein, comment on va pouvoir ressemer, hein, tu vois, ressemer dans le présent des graines, hein, voilà, la graine de la sécurité intérieure, la graine du droit à l'amour, la graine du droit d'être touché, la graine du regard bienveillant, etc., etc., tu vois, on se reconstruit comme ça, en fait, quoi, tu vois. Donc, ce qui est important d'entendre, peut-être, globalement dans ce thème, c'est que une lune noire en cancer, donc, c'est, on a besoin quelque part de virer sa famille, de virer sa culture. On peut avoir même honte de sa famille ou de sa culture, donc de son passé, donc de son enfance, etc., etc., tu vois. Mais on vire tout ça pour pouvoir construire dans le réel, un nouveau cadre dans lequel on va vivre une vraie relation à l'autre. Donc, mais là où on doit faire attention, c'est de ne pas rechercher une relation absolue. Le véritable absolu qu'on cherche, c'est une relation réelle, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut remplacer le mot absolu par réel. Voilà.
Oh oui, ça va.
En fait, dans l'enfance, c'est une non-relation qui s'est fait passer pour une relation absolutiste. Tu vois, et donc une relation sadomasochiste, voilà. Mais c'était pas une vraie relation, en fait. Et donc le vrai manque, c'est pas de ne pas être cet idéal, de ne pas être la bonne fille, etc. Non, non, le vrai manque, c'est la relation réelle. Et c'est quoi la relation réelle à la mère? Bah, c'est la relation réelle au corps, c'est la relation réelle à la terre, c'est la relation réelle aux émotions, aux sentiments, c'est la relation réelle avec l'énergie de vie, voilà, le mouvement de vie, c'est la relation réelle à l'amour, tu vois. C'est-à-dire que ce sera toujours mieux, finalement, de vivre un amour réel, même relatif, qu'un amour absolu irréel. Tu vois, en fait, voilà, c'est-à-dire, c'est sentir que dans la réalité, c'est-à-dire que tout, et là, on comprend mieux les vies antérieures, parce qu'on se dit que dans les vies antérieures, on s'était tellement séparé de soi-même qu'ensuite, on n'arrivait plus à trouver avec les autres la magie. On n'arrivait plus à trouver le truc vivant. Et donc, du coup, on est monté en intensité, on est monté en challenge, on est monté en vibe, on est monté en émotion, on est monté en passion, mais parce qu'on n'arrivait plus à trouver le lien. En fait, alors que dans cette incarnation, on a décidé de retrouver le lien véritable, et du coup, ça peut être tout petit. Tu vois, ça peut être tout petit, ça peut être, ça veut dire que même être 2 minutes en relation réelle, bah, c'est grand. Tu vois, même être finalement une seule heure dans un état de complétude, dans un état de sécurité, dans un état de satisfaction, bah c'est génial. Tu vois, et c'est là qu'on va vivre l'intensité. Et donc c'est pour ça que ça peut se vivre aussi dans un cadre thérapeutique, puisque pendant une heure, bah en fait, il suffit juste de 2-3 minutes de réelle authenticité, de réelle émotion, de réelle expérience. Et ça, ça peut permettre de réparer des pans entiers du passé. Tu vois.
C'est est-ce que tu peux me noter les références des livres dont tu m'as parlé, enfin, le truc sur les neurovégétales et puis...
Alors, donc du coup, il y a effectivement, et donc il y a Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, c'est des choses qui sont souvent accessibles sur Internet parce que c'est vieux, hein, maintenant, c'est les années 60, hein, 50, 60... et puis après il y a eu tout le boom. Donc il faut savoir que Wilhelm Reich a eu un engagement politique qui n'a pas plu du tout. Il s'est fait assassiner, hein, Wilhelm Reich, donc par les États-Unis, hein, voilà, parce qu'il prônait la liberté sexuelle, il prônait la libération sexuelle, et là il a été trop loin parce qu'en fait il a eu une problématique. C'est Wilhelm Reich, il était considéré un peu comme le fils spirituel de Freud, et effectivement il a fait un transfert au père avec Freud, et le truc c'est qu'il s'est fait rejeter après par Freud et notamment par l'intelligentsia, qui supportait pas l'idée qu'on parle de sexualité et qu'on considère que la sexualité était le moteur de la libération, tu vois. Et donc du coup, hein, et bien en fait il s'est fait rejeter, donc résultat après lui en fait il s'est engagé un peu dans des politiques qui était quand même en rébellion contre le père. Donc notamment, bah prôner, lui il faisait des séances, il prônait des séances thérapeutiques où la personne qui consultait, elle était à poil. À poil allongée sur le divan. Donc ça transgressait complètement le côté freudien où la personne arrivait dans son costume classique, on va dire, tu vois. Là pour le coup, la personne était à poil. Donc ça mettait le problème, c'est que les gens étaient tellement dans la frustration dans les années 60-70, frustration sexuelle, que bien souvent le thérapeute il sautait sur la patiente, tu vois, je veux dire, c'est voir la patiente délirer dans son truc d'enfance hyper libidinal à poil, je veux dire, le thérapeute il pétait un plomb. Donc du coup ça a créé des débordements, si tu veux. Donc ensuite il y a eu Gerda Boysen, donc Gerda Boysen. Elle, c'est une Scandinave, une noble Scandinave, qui s'est pris de passion pour les travaux de Reich et qui a fait... Et elle a été travailler avec Reich en tant que vraiment clinicienne, puisque Reich est un clinicien. Et donc, du coup, elle a été persuadée qu'effectivement, le corps était l'espace de guérison. Et donc, la végétothérapie, c'est quoi? C'est du massage du ventre, en fait. Hein, c'est comme du Chi Nai Tsang, c'est du massage du ventre, du massage du cerveau émotionnel, donc avec les intestins, etc. Et donc c'est de l'écoute, du massage, et ils ont obtenu des résultats incroyables en végétothérapie, c'est-à-dire qu'en faisant uniquement des massages, ils permettaient à des gens de sortir de leur névrose, de sortir de leur phobie, de sortir de plein de trucs, en fait. C'est-à-dire qu'en fait ils redonnaient au corps la possibilité de s'auto-guérir, point. Voilà. Et notamment, il donnait la possibilité de guérir à des gens qui n'avaient pas forcément la culture du dialogue, de la thérapie, qui n'avaient pas l'argent non plus, etc. etc. tu vois. Et donc voilà. Et donc, Gerda Boysen, elle a écrit un livre qui s'appelle Entre corps et soma, qui est un livre connu. Et ensuite, Gerda Boysen, elle a eu des enfants. Et aujourd'hui, ses trois enfants sont dans la psychothérapie. Il y en a un qui a créé justement ce qu'on appelle l'analyse organique. L'analyse psycho-organique, donc ça c'est son fils, Gerda Boysen, qui a, je sais plus comment il s'appelle lui, et puis il y a sa fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois qu'elle est à Barcelone, sa fille, elle a créé quelque chose de beaucoup plus tantrique, c'est-à-dire qu'elle est partie vers le tantra, et elle fait de la psychologie biodynamique, donc elle est dans le cadre de la psychologie biodynamique, mais en orientation tantra, voilà.
C'est-à-dire... Et le bouquin de son fils, c'est quoi?
Lui, je ne sais pas s'il a écrit un bouquin, mais en tout cas, lui, il a créé une méthode qui s'appelle l'analyse psycho-organique. Donc, il a refait quelque chose d'un petit peu plus cadré, c'est-à-dire que lui, c'est un dialogue, mais c'est un dialogue qui fait bouger le corps. C'est un peu comme si c'était de l'ostéopathie sans toucher, quoi.
Bah, c'est ce que je fais. Enfin,
Voilà. Bah, donc il y a des choses à voir là-dedans, mais peut-être en faire déjà l'expérience. Il y a des gens qui font des... Donc il y a des psychothérapeutes, ce qu'on appelle des biodynamistes, tu vois, des biodynamistes, c'est-à-dire qui essayent de remettre en mouvement la vie, l'énergie de vie. Et il y en a qui sont spécialisés dans la psychothérapie, hein, donc c'est des engagements assez longs. Hein, et puis il y en a qui sont spécialisés dans le massage biodynamique. Voilà, donc il y en a, tu peux voir si on est en Belgique, il y en a sûrement en Belgique, hein. Il y en a sûrement parce que l'école de psychologie biodynamique, bon, en France, elle est à Montpellier. Moi, j'ai mon ex-belle-sœur là qui s'est formée, qui est psychothérapeute biodynamicienne. Moi-même, j'ai fait des stages sur âme et sexualité, j'ai fait des stages sur la qualité de présence, l'ouverture du cœur, sur les mémoires et le plaisir cellulaire. Tu vois, j'ai fait différentes choses comme ça depuis, voilà, depuis des quelques années, hein. Et donc ils font des stages comme ça ouverts au grand public, mais bon, c'est hyper cher. Le problème de la psychologie biodynamique, c'est que c'est hyper cher. Des fois, c'est 600 euros un stage de 3 jours, de 3-4 jours, quoi. Donc c'est...
Ouais, mais après, enfin, après, t'es pas là quand je bosse, mais si tu vois la façon, le truc, c'est que tous ces trucs dont tu parles, le toucher du ventre, ou le fait de parler, de faire bouger le corps, ou, enfin, moi, c'est comme ça, quand je travaille sur le rêve avec les personnes, leur corps bouge. Et c'est ça que je fais.
Et
C'est-à-dire que
oui.
j'essaie de. Enfin, je fais bouger les trucs peu importe par où, en fait. Mais c'est là où je dis que j'ai besoin de me structurer plus fort. Et la question, quand tu dis, ouais, la question du toucher pour faire émerger les trucs et tout, ça reste le truc entre la mécanique et le fait d'entendre des mots, les mots qui sont structurés par le corps qui est structuré par un certain langage. Et en fait, les deux sont en communication et c'est là-dessus que je bosse.
C'est ça.
Et en fait, il faut que je structure, ou il faut que. J'ai pas l'impression, quand j'écoute, enfin, ce serait peut-être intéressant de lire des trucs, mais j'ai pas l'impression quand j'écoute que j'ai besoin. Peut-être que c'est intéressant de voir des personnes, comment elles travaillent, de les accompagner ou
Mais
discuter avec elles, ou
c'est pas
pas
tant
nécessairement de faire
si
des
tu veux,
stages.
c'est pas tant si tu veux de que ça t'apprenne des choses, c'est plutôt en fait que ça te fasse sentir que y a des gens qui ont posé des cadres théoriques ou des cadres de compréhension et que utiliser ces cadres-là, ça permet de vivre ces expériences d'exploration avec plus de peut-être plus de maturité ou plus de sécurité ou plus d'intelligence, tu vois. Parce que toi, effectivement, tu as un nœud nord en bélier maison 3, donc de toute manière, tu chercheras toujours par toi-même, si tu veux, à progresser intellectuellement, à découvrir par toi-même, à t'originaliser aussi dans ta façon de te représenter les choses, dans ta façon de communiquer les choses, etc., etc. Donc ça restera ta touch, on va dire, ça restera ta spécificité. Mais tu sais bien qu'au niveau social, en fait, quelqu'un qui serait totalement unique, a des chances d'être rejeté par le groupe, a des chances même de ne pas être compris, a des chances d'être considéré comme un marginal. C'est-à-dire qu'il faut savoir être original dans le faire, dans l'action, mais ensuite, dans la communication, il faut savoir étayer son propos sur la base de choses connues. Tu vois? Donc c'est ça, hein, le jeu social. On a besoin d'être originaux pour pouvoir effectivement avoir une attractibilité, je sais pas comment on dit, enfin une attraction sociale. On a de la valeur et on n'est pas interchangeable. Tu vois, c'est nous et personne d'autre. Donc on a besoin de cette originalité et en même temps il faut pas aller trop loin dans l'originalité parce que l'originalité ça fait peur, parce que le hors cadre ça dérange et donc
Et parce que ça permet pas, quand il n'y a pas de cadre, ça ne permet pas aux choses de se transformer, c'est surtout ça.
Oui, et puis des fois de se dire, c'est-à-dire l'autre ne nous comprend pas, parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots, parce qu'on n'emploie pas les mêmes définitions, on donne pas les mêmes définitions aux mots, etc. Et puis au bout d'un moment, bah personne ne nous comprend. Donc tu vois, on peut pas dire à l'autre, bah en fait viens faire l'expérience de ce que je propose, et puis tu verras. On peut pas dire ça à tout le monde. Il y a des gens, on a besoin, ils vont nous demander d'exprimer ça, et donc on a besoin de trouver du langage pour le faire. Et ben certains ont réfléchi à ça. Et donc c'est important d'aller lire peut-être et d'aller poser des bases justement, tu vois, pour s'étayer, pour se construire tout simplement en fait, tu vois. Si moi par exemple j'avais dit ouais moi je suis un intuitif machin machin, tu vois, et les gens ils sont là ouais mais qu'est-ce que tu fais en fait? Bah alors du coup tu vois, ça serait confus. Bah aujourd'hui je suis content de dire bah je suis astrologue, je fais de la réinformation cellulaire et puis je pratique le rêve éveillé. Ah les gens, après les gens ils sont là, ah bah ouais d'accord je comprends mieux. En fait ils comprennent pas forcément mieux, mais
Non,
intellectuellement ça les rassure. Tu
bien
vois,
sûr, je
ils
comprends.
mettent des étiquettes, ils mettent des cases, tu vois, ça les rassure. Alors il y a un livre qui a été écrit aussi, un gars qui parle de Wilhelm Reich, hein, et il a appelé ça le corps quantique.
Ça m'intéresse vachement.
Alors non, attends, je me trompe. Dans le corps quantique, c'est Deepak Chopra qui a écrit ça. Attends, je vais voir ma bibliothèque. Voilà.
Ouais.
Non, c'est pas de ce livre-là dont je parle. Attends, c'est un autre. C'est un mec, c'est comment il s'appelle? Gérard Gouache.
Ouais.
Guasch. Et lui, il a écrit Wilhelm Reich, Énergie vitale et psychothérapie. Donc, c'est un livre qui a été écrit. Qui a été écrit. Ça permet de bien comprendre. En 98, ouais. En 98. Donc, il a déjà 20 ans ce livre. Voilà, c'est intéressant parce que il va vraiment. C'est aussi pour ça que je connais bien l'histoire de Reich, tu vois, parce que il va vraiment parler à la fois de Reich l'homme, le découvreur, parce que Reich était un clinicien. Reich, contrairement à Freud, qui lui a beaucoup falsifié ses résultats pour convenir à ses théories. Reich, lui, il est parti de l'expérience et il a bien vu qu'à certains endroits, l'expérience que lui faisait en clinique était différente, ça donnait des conclusions différentes de la théorie freudienne. Et donc, il a commencé à remettre en question la théorie freudienne. Et comme Freud savait qu'il avait manipulé les résultats, enfin, qu'il avait tout, il avait fait en sorte que ça fonctionne, bah, en fait, il l'a juste rejeté, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'était devenu, parce que si tout le monde avait su que Freud falsifiait ses résultats, on aurait disqualifié Freud, tu vois. Or Freud voulait garder le statut d'autorité, tu vois. Donc il éliminait toutes les menaces en fait.
Ouais.
Donc c'est intéressant. Et puis après il y a plein de choses qui ont été faites là-dedans. Il y a plein de choses. Moi je parle de Gerda Boyson, c'est encore quelqu'un qui est encore considéré comme une ancienne là pour le coup. Il y a vraiment des nouvelles choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, en fait, la psychologie biodynamique, ça touche le cheval, ça touche la danse, ça touche le rêve éveillé, ça touche la constellation, ça touche le massage, enfin voilà, ça touche le,
ouais, c'est là-dedans,
l'art thérapie.
Dans les temps, je me trouve bien. Ouais, ouais.
Voilà, tu vois. Donc pour moi, c'est ce qui représente le mieux pour toi, à la fois garder la magie de l'expérience par le corps, l'expérience ouais. du réel, l'expérience quand il y a de l'émotion, quand il y a de la libre circulation libidinale, etc. Ouais. Et là, on peut travailler avec le désir, on peut travailler avec le toucher, on peut travailler avec l'imaginaire, on peut travailler avec le fantasme, etc. On peut travailler avec tout. Tout est matière, hein, on va dire.
C'est ça.
Voilà, tout est utilisable. Le mouvement, enfin voilà, le groupe, le rire, enfin bon, tout est utilisable, la sexualité, enfin etc., etc. Et puis d'un autre côté, en fait, un besoin d'étayer pour pouvoir parler à des autorités, pour pouvoir parler à des intellectuels, pour pouvoir comprendre et être comprise aussi de ses patients, tu vois, et pour pouvoir aussi, parce que les gens, ils ont un double besoin, si tu veux, ils ont un besoin de retrouver concrètement au niveau de leur féminin, donc corporellement, la mobilité de l'énergie de vie, tu vois, donc ça c'est voilà, mais ils ont aussi besoin de transformer leur façon de penser, donc de poser des nouveaux accords, des nouvelles croyances, des nouveaux axes dans leur vie pour que ça tienne, parce que sinon ça restera une expérience parmi d'autres qui va se noyer dans un flot d'expériences. Mais pour que ça puisse être une expérience qui s'ancre vraiment, il faut que cette expérience, ensuite, on lui laisse de la place dans le futur. Et c'est souvent en transformant les systèmes de croyances. Parce que si la personne, elle fait, par exemple, dans un cabinet, l'expérience de l'amour de la mère, c'est génial et tout, et qu'elle continue à croire qu'elle est une merde, et qu'elle voit rien, et que de toute manière, elle n'est pas à la hauteur, et que patati patata,
non, tu vois,
eh ben, ça fonctionne pas. Parce qu'au bout d'un moment, la personne, elle va être dépendante. Elle va créer juste une dépendance, en fait, tu vois.
Mais c'est là où j'ai l'impression que par rapport à l'intelligence des plantes, à la mort, etc., il y a quelque chose qui est fondamental par rapport à cette réinformation.
Alors, oui, en fait, si tu veux, on peut tout à fait utiliser de toute manière les choses de la nature. Et j'ai envie de dire même, à la limite, plus on utilise des choses naturelles et plus on contacte des zones profondes du corps.
Voilà,
tu vois.
c'est ça.
Voilà. Donc effectivement, on pourrait
Mais
dire
pourquoi?
qu'il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, et puis il y a l'humain, et puis il y a l'angélique. Tu vois, on pourrait dire déjà, il y a cinq
Ouais.
plans qui touchent cinq niveaux de l'être humain différents, en fait. Et j'ai envie de dire, pour se reconstituer c'est cette énergie de vie, tu vois, c'est aussi retrouver la dimension du végétal en nous. Tu vois, cette subtilité, je veux dire, cette sensibilité de la plante, cet amour de la lumière de la plante, cette capacité à l'enracinement de la plante, enfin plein de choses, voilà, plein de choses. Et puis les fréquences. Voilà.
Bon, mais en fait, c'est très bien. Je vais digérer un peu parce que je dois réfléchir aux informations.
Oui, voilà, bah tu vois, là c'est on va dire un premier voilà, une première lecture, tu vois, astrologique qu'on peut faire sur la base de la lune noire, avec l'idée qu'il faut que tu comprennes au niveau de ton âme que de toute manière, en fait, c'est comme si cette expérience donc de la mère, cette expérience que tu t'es offerte dans cette incarnation, elle a été un condensé, hein, de beaucoup d'incarnations. Et aujourd'hui, en fait, c'est peut-être l'un des trucs, et je vais finir là-dessus, c'est de comprendre que pour contacter la puissance du féminin, il nous faut une structure, il nous faut un axe, parce que sinon, si tu veux, le féminin est une énergie qui fonctionne à 360 degrés, si tu veux. Donc, c'est-à-dire c'est expansif, quoi. Ça veut dire que ça part du point central et ça s'expanse de façon sphérique. Si on n'a pas la structure, bah, en fait, ça nous ouvre effectivement, mais ça nous ouvre dans tous les sens, tu vois. Et c'est pas gérable. En fait, c'est-à-dire que le féminin ne peut pas exister sans le masculin. Et pour que on vive une intensité dans le féminin, il nous faut un ancrage, un ancrage fort dans le masculin, tu vois. Donc si on veut, si on aspire à une jouissance de notre féminin, ou à une intensité dans le féminin, donc dans le réel, hein, dans l'expérience réelle, eh bien en fait, il faut une structure. Dans l'ancien temps, cette structure, c'était le club, c'était la religion, c'était l'État, c'était la famille, c'était la société, etc., etc. Aujourd'hui, en fait, cette structure, on a besoin de la trouver individuellement. Voilà. On doit porter notre propre structure. Et c'est cette structure, donc c'est pour ça que la guidance, c'est vachement bien, c'est la guidance quantique, parce que justement, la guidance quantique, elle vise à se reconstruire un axe dans le masculin pour pouvoir, si tu veux, accueillir, pour pouvoir vivre et vibrer la puissance du féminin. Tu vois? Donc, par exemple, dans les trois sessions de guidance informationnelle, bah, la dernière trame, elle s'appelle la source féminine. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'on met trois sessions à reconstruire l'axe de notre masculin pour pouvoir contacter la source féminine. Tu vois. Et puis après, la première session de la guidance quantique démarre par le couple, et puis ça finit par ce qu'on appelle la puissance en relation. C'est-à-dire qu'effectivement, puissance en relation, c'est que je peux être puissamment relié à ma source d'énergie, donc je peux être puissant, mais je peux le vivre aussi dans le monde. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai plus peur de l'autre. Voilà. L'autre n'est plus une menace à ma capacité à vivre réellement un accord ou un lien, une connexion avec ma propre puissance, donc avec mon propre féminin. Voilà. Donc voilà le truc, tu vois. Je parle de ça parce que c'est très Capricorne-Neptune, quoi, tu vois. C'est-à-dire, en fait, on donne une structure très capricornienne pour pouvoir justement ouvrir la porte à la magie neptunienne. Parce que si on l'ouvre sans la structure, on a le risque, c'est pas toujours le cas, mais on a le risque de partir dans le mystique, on a le risque de partir dans la folie, on a le risque de se disperser dans le bisounours, enfin d'ouvrir toutes les portes et à un moment donné de se faire totalement envahir, hein, tu vois. Si on part que dans le Capricorne, on a le risque de la sécheresse, de l'intellectuel, de la rigidité, du jugement, de l'intolérance, tu vois, et de l'enfermement, en fait. Hein. Donc voilà, c'est vraiment les deux.
Attends, il y a encore un truc juste, mais ça c'est une question, ça concerne pas directement le thème, mais sans doute clairement aussi. En fait, j'ai un souci de santé qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps et je suis un peu perplexe parce que je sens que c'est pas avec les médecins que je vais trouver la solution. Allô?
Oui, je t'écoute.
Ça, c'est incroyable. Allô?
Oui, je t'écoute.
Ok. C'est que, en fait, j'ai une douleur assez forte à l'utérus et j'ai un retard de règles de genre 21 jours, je suis pas enceinte. Et je perds mes énergies et je me sens vraiment pas bien. Et j'ai essayé de contacter des gynécologues qui m'ont sorti de la merde. Et je sais que j'ai eu un choc, enfin, il y a eu une crise dans le couple et je suis tombée par terre, en fait. Genre, mes muscles au niveau du bas-ventre, tout ce qui est la zone entre mes jambes et enfin, c'est vraiment dans l'utérus, quoi. Plus de résistance, enfin, ça a touché, enfin, ça a fait que je suis juste tombée. Ça a coupé toutes mes résistances. Et je me demande si c'est ça qui a créé le retard, enfin un choc, parce que je sens que mes muscles sont toujours ouverts, enfin au niveau libido, je suis toujours pas en phase comme ça, tu vois. Et du coup, ça me fait un peu flipper. Donc voilà.
Oui, alors tu vois, là, je me demande, alors moi, tu vois, le premier truc qui m'est venu, c'est que je me demande si t'es pas en train de concrétiser dans ton utérus ou en tout cas autour de ton utérus, parce que ça peut être extra-utérin aussi, en tout cas de concrétiser cette espèce de fille parfaite, tu vois, qu'on t'a demandé d'être, ou de mère parfaite qu'on t'a demandé d'adorer, ou je ne sais quoi, tu vois, pour l'expulser de ton corps, tu vois. Je me demande si c'est pas ça, en fait. Donc effectivement, ce serait psychosomatique. Et ça pourrait être... Donc du coup, je me dis... T'as fait un scanner de l'utérus, de la zone utérine?
Non, pas
alors,
encore.
Ça, par contre, ça pourrait être intéressant, un scanner, tu vois, parce qu'un scanner va... Parce qu'il peut y avoir un kyste, ou peut y avoir... Tu vois... Donc effectivement, c'est pas forcément une grossesse, mais ça peut être ce qu'on appelle une grossesse nerveuse, ou un kyste, tu vois, quelque chose qui peut être intra ou extra-utérin. Et qui effectivement, en fait, j'ai envie de dire que peut-être le choc a peut-être rendu sensible cette zone, tu vois, comme s'il y avait quelque chose d'endormi ou quelque chose de potentiel qui tout d'un coup s'était mis à se développer, comme si c'était réveillé, tu vois. Mais ça m'étonnerait pas avec toi, c'est vrai qu'avec le nœud sud comme ça en balance, avec Vénus en scorpion, de toute manière, il faut toujours que tu surveilles ta sphère sexuelle, même au niveau physique, hein, tu vois, donc la sphère utérine, donc pour éviter les cystites, les mycoses, les grossesses non désirées, ou les choses comme ça, quoi. Alors ça, c'est une première chose, toi, ça, c'est une première chose. Après, hein, effectivement, il faut savoir que donc ton compagnon, la Marvin, en fait, hein, donc qui lui est dans une identification au Père Tout-Puissant, quand il part dans son imaginaire, il est vraiment comme un héros tout-puissant qui peut tout faire. Donc son désir d'enfant, à un certain endroit, il a très bien pu constituer une espèce de moteur magique, tu vois. Qui n'est pas réel, mais qui peut donner à ton corps comme si c'était une fécondation, magique, tu vois, et que ton corps tout d'un coup il déclenche de façon magique, donc psychique, comme un début de gestation, tu vois. Donc faut voir aussi à ce niveau-là, tu vois. Donc là, ce serait plus des liens magiques, enfin voilà, des choses, tu vois. Donc moi je dirais que dans un premier temps un gynéco ça va pas suffire, à mon avis il faut plutôt aller chercher un scanner, tu vois, un scanner, je sais plus s'ils font ça aux ultrasons, enfin c'est comme un truc de femme enceinte, hein. Un scanner Doppler, là, en fait, pour regarder un peu l'utérus, voir un petit peu s'il n'y a pas des formes à l'extérieur ou au niveau membranaire ou au niveau interne, tu vois, voilà, qui seraient des formes de kystes ou des choses comme ça. On en a tous, hein, voilà, des nodules, des trucs comme ça. Mais il y a aussi toute la part psychique, hein, effectivement, et ça c'est plus quelque chose qui se résout. Tu vois, par exemple avec la guidance, on apprend à ne plus se laisser envahir par les processus magiques conscients ou inconscients de l'autre. Tu vois, c'est-à-dire ne plus être ouvert à des manipulations magiques de la part d'autrui, quoi. Donc et ça pourrait être aussi le truc, tu vois. C'est-à-dire que comme il y a un désir inconscient quand même d'atteindre cette mère idéale, forcément, hein, le désir d'enfant de ton partenaire, il y a une partie de toi qui cherche à être la mère idéale de l'enfant de ton partenaire, en fait. Voilà, tu vois. Et là, pour moi, ça ouvre la porte à des choses. Mais comme elles ne sont pas réelles, entre guillemets, hein, elles peuvent être à moitié constituées, quoi. Donc, t'es pas enceinte. Bah, tu vois, t'es pas enceinte, mais il y a quand même quelque chose. Tu vois. Donc, voilà. Donc, soit c'est quelque chose de psychique, hein, qui n'a pas encore vraiment de structure physique, hein, et à ce moment-là, au niveau physique, ils vont rien voir, tu vois. Et à ce moment-là, on est sûr que c'est uniquement psychique. Soit c'est effectivement quelque chose qui s'est concrétisé au niveau physique, et le fait de l'extraire, ça va te permettre de lâcher le truc psychique qui va avec, tu vois. Et donc d'expulser physiquement, tu vois, d'expulser physiquement cette espèce d'idéal mort, en fait, parce qu'on peut l'appeler comme ça, c'est un idéal mort, en fait, c'est un idéal figé. C'est pas en vie, quoi, c'est pas vivant. Donc voilà. Donc,
Alors je vais garder ça, je vais réfléchir à tout ça.
C'est ça.
Et je dois travailler cet après-midi, en fait, je dois bouger.
Ouais, moi aussi, ouais. Bon, bah super, hein. Et bah écoute, Aurélia, j'ai bien reçu, hein, ton virement, c'est OK. Bah écoute, tu me donneras les infos, parce que je vais effectivement en fait mettre ça sur le site de YoVision, et donc du coup il va mettre un point sur le Google Maps, tu vois, donc il faut l'adresse exacte, machin. Bon, j'ai bien vu, hein, le château, tout ça, j'ai bien repéré, mais enfin que ce soit bien validé, et que moi je puisse faire le bulletin d'inscription aussi, parce que je vais le mettre en ligne, je pense, pour que les gens puissent s'inscrire assez facilement. Voilà. Et puis effectivement, je vais lancer ça sur mes sites web aussi, hein, et à partir de là, oui, le Facebook, tout ça, on va pouvoir envoyer ça.
Ça marche.
Donc cool. Et ben écoute, j'attends les infos et puis on met ça en ligne.
Voilà, je te remercie.
Bon, bisous Aurélia, à bientôt.
Bisous, à bientôt.
Ciao, ciao.